240. Donc on va commencer Bezrat Hashem, notre troisième cours sur le chapitre 18. Et on va dédier ce cours, Bezrat Hashem, pour la réfoua Shelema de notre cher participant au cours, Yaakov Bar Khalifa HaKohen, qu'il ait une réfoua Shelema Ukrova, réfoua Shelema Express Now, et que la réfoua soit tellement rapide à tel point qu'on oublie qu'un jour il a été malade, voilà, qu'il quitte l'hôpital rapidement, et que Bezrat Hashem, on le revoit très rapidement au cours. Alors, et Monsieur Waki aussi, c'est Baruch ben Shalom ben Shalom ben Shalom ben Ayala. Refoua Shlema. Non, pas d'ici, quelqu'un d'autre. Ah, bon. D'accord. Donc refoua Shlema. Alors, quel est le thème du chapitre 18? Le thème du chapitre 18, rapidement. On est rentré dans un nouveau thème, à savoir, notre but, c'est d'essayer d'expliquer qu'est-ce qui fait qu'un juif est juif. En d'autres termes, est-ce que c'est la pratique qui fait qu'un juif est appelé un juif? On l'a démontré clairement dans les deux cours précédents.
C'est Dieu qui décide qu'il va être juif ou pas.
Bien sûr, c'est Dieu qui décide. Mais Dieu nous a donné, avec la Torah, les outils pour décider qu'est-ce qu'un juif.
Non, alors, qu'est-ce qu'un juif, ok, mais qui va être juif avant les ans, c'est lui qui décide.
Bien sûr.
Les âmes, ouais.
Ah, Dieu, il décide tout. Alors la question, bonsoir. La question qu'on a posée donc la semaine dernière, c'était, et donc on l'a démontré ça clairement, on a dit, comment définir qu'est-ce qu'un juif? Page 240. Comment définir qu'est-ce qu'un juif? Il y a beaucoup de gens qui pensent que la judéité va être définie par rapport au niveau de pratique. Comme c'est dans beaucoup d'autres religions. Dans beaucoup d'autres religions, comment on va définir quelqu'un qui est catholique, par exemple? C'est quelqu'un qui est pratiquant. Celui qui n'est pas pratiquant, il n'est pas catholique. On ne peut pas être catholique sans être pratiquant. Il est avdil. D'accord? Et c'est dans toutes les religions, c'est comme ça. Je veux dire, si tu pratiques, on t'appelle par le nom de la religion que tu es. Si tu n'es pas pratiquant, tu n'es pas pratiquant.
Il y a avec son juif qui...
D'accord. Or, justement, ce qu'on voit, et c'est ça la preuve qu'on a prouvée dans le cours la semaine dernière, le cours d'il y a deux semaines, on voit que même si une personne a fauté, on l'appelle quand même juif. Donc, ça veut dire clairement que le fait d'être juif ne dépend pas du niveau de pratique. Bien sûr qu'un juif, on lui demande un mode d'emploi. On lui dit qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Mais ça ne veut pas dire que s'il ne suit pas le mode d'emploi, il arrête d'être juif. Pourquoi? C'est là qu'on a commencé à expliquer. On a expliqué des choses très importantes. On a dit qu'en fait, on doit savoir que ça, c'est un héritage qu'on a en nous. Que chaque juif, au fond de lui, il a un héritage, un amour caché vers un Kadosh Baruch Hu. Même si le juif va décider, il va dire « oui, mais moi je suis pas d'accord », il peut être d'accord ou pas d'accord, il a ça en lui. Il peut rien faire. On avait donné un exemple, on avait dit c'est comme si quelqu'un il est doué pour la musique, et il va dire « non, je suis pas doué pour la musique ». Il a beau se sauver de la musique, il a beau ne pas vouloir l'écouter, il a beau ne pas vouloir entendre, tu peux rien faire. T'es doué pour la musique, t'es doué, c'est un don que tu as en toi. On avait donné aussi un autre exemple, c'est comme si par exemple, quelqu'un veut dire « je ne suis pas le fils de monsieur Intel », parce qu'il supporte pas son père. Il a beau ne pas supporter son père, il a beau se sauver, ouais. Il a beau aller à Honolulu, il a beau aller où tu veux, d'accord? C'est ton père. Ouais. Tu pourras jamais le changer. Alors c'est la même chose. En vérité, le fait d'être juif, on a expliqué, à l'époque de Avraham Avinu, pourquoi il est devenu juif monothéiste? Parce qu'Avraham Avinu, par ses propres moyens, il a découvert, par son propre intellect, son propre cerveau, il a découvert l'existence de Dieu. Donc là, effectivement, à l'époque d'Avraham Avinu,
d'accord, fait connaître à...
Non, Avraham Avinu, quand il est né, il connaissait pas Dieu. Il a découvert par ses propres moyens. Donc là, effectivement, à l'époque d'Avraham Avinu, celui qui avait découvert Dieu, il était appelé croyant, juif. Comme c'était à l'époque, juif, ça veut dire être monothéiste. Celui qui n'avait pas découvert, il n'était pas monothéiste. Mais à partir d'Avraham Avinu, Dieu a dit, dorénavant, à partir de toi, la judéité ne sera pas défini par rapport à est-ce que la personne a fait un effort de recherche pour trouver qu'est-ce que c'est Dieu. Non. Chacun qui descendra d'Avraham Avinu aura ça en lui, dans ses gènes. D'accord? J'accélère parce que ça on l'a expliqué longuement dans le cours de la semaine dernière, le cours de la semaine d'avant. On a expliqué que peu importe les actes d'une personne, il a ça en lui. Et on avait fini par ça la semaine dernière. On avait dit, on a vu qu'il y a des fois dans l'histoire des gens qui étaient très très loin de la Torah. Très très loin. Et quand on est venu les voir, on est venu leur dire qu'ils devaient faire teshuvah. Ils disaient, mais c'est impossible, jamais je peux faire teshuvah. Et eux-mêmes, ils pensaient sincèrement, objectivement, qu'ils ne peuvent pas faire teshuvah, tellement ils sont loin, ils ne peuvent pas faire teshuvah. Et on a vu clairement que dès qu'ils ont commencé à faire teshuvah, les choses avaient l'air beaucoup plus simples que ce qu'ils pensaient. Et que très rapidement, ils ont pris le pli. Pourquoi? Parce qu'en vérité, un juif, il est religieux. Ça n'existe pas un juif qui n'est pas religieux. Voilà, c'est ça la conclusion de la semaine dernière. C'est que le juif non religieux n'existe pas. Seulement, il y en a qui ne savent pas encore qu'ils sont religieux. Il faut leur expliquer qu'ils sont religieux. Et leur apprendre à faire sortir le côté religieux qui est en eux, c'est tout. Mais une fois que tu as appris à être comme ça, ça marche. Alors ça, c'était la conclusion. Ça, c'était la conclusion de la semaine dernière. Donc, on avait expliqué que le juif non pratiquant en vérité n'existe pas. La seule chose, c'est qu'un juif qui a décidé d'arrêter de pratiquer, mais en vérité, au fond de lui, il reste pratiquant, il reste attaché à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on ne peut pas arrêter à aucun instant. Est-ce qu'on peut arrêter d'être juif? C'est impossible. On peut arrêter de pratiquer le judaïsme, mais on ne peut pas arrêter d'être juif. Parce que être juif, on a ça dans les gènes, grâce au trou de Avraham Avinu, qui nous a donné ça en héritage. Ça, comme on a expliqué. D'accord. Maintenant,
alors on peut considérer qu'Ishmaël aussi vient de Abraham Avinu.
Non, vous avez posé la même question la semaine dernière. J'ai dit
bon?
Que
non. Oui. Non, bon, non,
non. Alors, c'est pas, ça me dérange pas. Alors, excusez-moi. Non, non, au contraire, ça me dérange pas. Si vous reposez la question, c'est que j'ai pas assez bien répondu la semaine dernière.
Non, d'accord. Non, j'ai oublié, voilà.
Donc, non, pas du tout. Dieu a dit à partir des enfants de la descendance principale. La descendance principale, c'est Yitzhak, c'est pas Ishmaël. Ishmaël, c'est l'enfant de la servante.
Oui,
non, d'accord. C'est très clair. Non, mais c'est très clair. Ça veut dire que ce route-là, on l'a donné. Mais c'est vrai que les Arabes ont ce côté monothéiste. Bon, ça, on peut pas leur enlever. Ils ont ce côté monothéiste. Aussi. Non. Chrétiens, c'est un peu compliqué. C'est différent. Ils ont rajouté.
Oui.
Bon, alors, je vais pas rentrer dans les détails. Hein? C'est pas le moment de rentrer dans les détails.
Ils ont eu 2000 ans, plus de 2600 ans après Abraham, ils ont eu ce côté monothéiste des Arabes. Il y a un trou où ils sont polythéistes pendant 2600 ans.
C'est peu importe. C'est pas bon. Pourquoi on va s'attarder sur les Arabes? Déjà, on va s'occuper des Juifs. C'est déjà assez compliqué comme ça. Après, on parlera des Arabes. En tout cas, ce qui est clair pour nous, les Juifs, c'est que même si tu vois un Juif qui est loin de la Torah et que pour toi, il est vraiment à côté de la plaque, on peut pas être à côté de la plaque. Ça n'existe pas. Le maximum qui peut arriver, c'est qu'il peut oublier qu'il est Juif. Et il peut oublier le fait qu'il a en lui la capacité d'être juif pratiquant. Mais dès qu'il commence à repratiquer, tout de suite, très rapidement, ça revient. Il faut suffit de dégraisser, et tout de suite, ça revient. Qu'est-ce qu'on a expliqué l'homme? Tu voulais dire quelque chose?
Non, monothéiste, je voulais dire, ça veut dire
quoi? Monothéiste, ça veut dire celui qui croit en un seul Dieu.
D'accord.
D'accord. Celui qui croit en un seul Dieu. Alors que les autres, ils croient en plusieurs dieux, ça veut dire c'est l'idolâtrie. Ok. Alors. Maintenant. Vous avez l'étude ici du Vehine Achorma. Alors, je vais accélérer un petit peu. Alors, je suis à la page 240. Première phrase de la page 240. Excusez-moi. Cherchez ici, là. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, Ve'ine Arorma. Ve'ine Arorma. Imekor Asechel Ve'avana. Maintenant, c'est très curieux. Quand on étudie les livres de Kabbalah, là, maintenant, ce qu'on va essayer de se poser la question, c'est finalement, où est la Neshama? Si je vous pose la question, d'après vous, voilà, Michael est à côté de moi aujourd'hui, je pose la question, d'après toi, où se trouve la Neshama?
La Neshama,
ouais, elle est
si
où?
Si je réfléchis, la Neshama, ça vient de Dieu. Si elle vient de Dieu...
Dans ton corps, elle est où?
Dans la tête, dans le cerveau.
Dans la tête?
Dans le
cerveau. Est-ce qu'il y a une Neshama dans tes pieds?
Non, dans ton corps.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as dit qu'il y avait dans la Neshama, on avait deux penchants. Un penchant... des pulsions qui étaient plutôt localisées dans le cœur,
mm-hmm.
et un autre penchant de comment ça s'appelle, pas de l'intellect, mais du Yetzer Tov, qui était plutôt localisé dans le cerveau.
Très bien.
Donc, comme la Neshama, c'est quelque chose qui vient d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on ne peut pas dire que ça vient, c'est pas une pulsion, c'est forcément de l'intellect, donc peut-être que ça vient, que c'est dans le cerveau.
Donc, je vais expliquer ce qu'il a dit. En fait, on avait expliqué dans le chapitre 9, Razak, on avait expliqué dans le chapitre 9, et c'est une bonne question, ça va nous poser une question, ça va nous poser un sacré problème, ça. On avait expliqué dans le Perek Tet que il y a deux quartiers généraux dans la personne. Il y a le cerveau et le cœur. Le cerveau, c'est le quartier général, on a dit, du Yetzer Tov, du bon penchant. Le cœur, c'est le quartier général
des pulsions,
donc du Yetzer Hara. On a expliqué, c'est pour ça que le cerveau, c'est ce qui est froid, ça représente la maîtrise, le contrôle, donc je me contrôle. Le cœur, ça représente, je me laisse aller, et ça représente le Yetzer Hara. Donc d'après ça, est-ce que tu dis, c'est écrit dans le chapitre 9, c'est écrit dans beaucoup de livres de Kabbalah, c'est écrit que le siège de la Neshama, où se trouve? Il se trouve dans la tête. Ça nous pose un vrai problème. Ça veut dire quoi? Si tu me dis que le siège de la Neshama se trouve dans la tête, ça veut dire que la Neshama est liée à la réflexion. Ça veut dire que celui qui ne prend pas le temps de réfléchir à qu'est-ce que c'est un juif, il n'est pas juif. Est-ce que vous me suivez?
Non.
Je vais au bout du raisonnement. Si tu me dis que la Neshama est liée au cerveau, à la Chorma. Enfin, j'appelle ça le cerveau pour l'instant, mais c'est écrit la Chorma. Chorma, c'est quoi la Chorma? C'est le cerveau. Ça veut dire que la Neshama, donc être juif, est liée au cerveau. Ça veut dire quoi le cerveau? Le cerveau, ça veut dire au fait que je vais réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être juif? Ça veut dire que si tu es un juif qui ne réfléchit pas à qu'est-ce que ça veut dire pour lui être juif, quelqu'un qui est là, qui ne pense pas à ça. Il ne pense pas à ça, il pense à autre chose. Il n'en a rien à faire de ça. Alors, ça voudrait dire peut-être qu'il n'est pas juif.
Non, pratiquement, il n'agit pas comme un juif. Mais il reste juif.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que le Kalanechama se trouve dans le Chorma?
Ça veut dire que, par rapport à ce que tu dis, Chabad, ça veut dire que on réfléchit, on agit suivant la réflexion. Donc, pour être juif, il faut agir.
Mais s'il ne réfléchit pas,
ben, ça veut dire qu'il est juif, mais sans l'être.
D'accord, mais tu m'as dit que l'Aneshama se trouve dans Chorma. Donc, s'il n'a pas de Chorma, ça ne marche pas.
Mais il est obligatoire.
Alors, il va expliquer quelque chose de très important aujourd'hui.
Il est obligatoire.
D'accord. Il dit, c'est quoi la Chorma? Est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi la Chorma? Alors, on va voir ce qu'il se rappelle. Ça, on l'a expliqué, ça fait longtemps, ça. Il y a près d'un an. La différence entre, qui se rappelle la différence qu'il y a entre Chorma et Bina? Vous vous rappelez?
Non.
Allez, on va rafraîchir un peu la mémoire.
C'est dans l'impulsion de l'idée, c'est le flash.
Oui.
Et Bina, en fait, c'est le. Bah, c'est-à-dire, c'est ce qu'on lit, le plus à la femme, c'est le développement de l'idée.
D'accord, donc on va donner un exemple. Imagine-toi, par exemple, tu es bloqué sur un problème, d'accord? Un problème qui est très compliqué. Quelle est l'étape de Chorma? Quelle est l'étape de Bina?
L'étape de Chorma, c'est je trouve le théorème à appliquer. Et l'étape de Bina, c'est je rédige sur ma copie.
D'accord, donc, mais à l'étape de Chorma, qu'est-ce que tu vois dans ta tête?
À l'étape de Chorma, je sais pas, je vois deux droites parallèles, l'une droite qui bouge perpendiculairement.
Alors, l'une. C'est plus compliqué que ça.
Là,
c'est là que je veux revenir parce que vous allez comprendre où je veux en arriver. En fait, ce qu'on explique. Ah, j'ai pas dit les Chaïm. Baruch Atadonai, Elohim, Mefraim, Shakolim, Yvaron. Pour la réflexion Shlema de Yaakov Bachrifa et Shalom Ben Ayala. Oui, Réfoua Shlema aussi de. D'accord, bah tu me le donnes. Alors, en fait, c'est très simple. Ce qu'on explique, ce qu'on avait expliqué au début du Tania, et c'est pour ça que c'est toujours bon de rafraîchir la mémoire, c'est que quand on développe une idée, il y a plusieurs étapes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une fois d'être bloqué sur un problème qui vous travaille depuis plusieurs jours? Un problème. Et à un moment, tu vois comme une sorte de flash. Ça t'est déjà arrivé d'être bloqué sur un problème? T'es bloqué sur un problème. D'accord? Gros problème. Et à un moment, tu sens un flash. C'est quoi le flash? Tu sens qu'il y a une idée, tu sens qu'il y a un potentiel, tu sens qu'il y a une solution. Mais à ce stade où tu vois le flash, tu ne vois pas encore dans les détails comment ça solutionne le problème, mais tu sens qu'il y a une solution. Tu vois la lumière. D'accord? C'est ce qu'on appelle Chorma. C'est quoi Chorma? Chorma, c'est une étape dans laquelle en vérité il n'y a rien. Tu vois juste un flash. Et d'ailleurs, si tu n'as pas la présence d'esprit de passer tout de suite à la phase numéro 2 qui est Bina, c'est quoi Bina? Bina, c'est le développement de l'idée. Et bien cette idée risque de partir et de disparaître. On connaît beaucoup de personnes qui sont des génies, ils ont des superbes idées, mais ils n'ont que la Chorma. Ça veut dire qu'ils n'ont que les idées, et après leurs idées s'en vont. Et du coup, ils font rien dans la vie. Alors que d'un autre côté, on connaît des personnes qui ne sont pas spécialement des génies. Ils ont eu une idée dans la vie, mais ils sont devenus milliardaires. Parce qu'ils ont été capables de prendre cette idée et la développer en mode Bina. Enfin, on l'a expliqué longuement dans le chapitre 3. Donc c'est quoi Chorma? Chorma, c'est une phase dans laquelle tout est concentré, tout est flou, dans laquelle on voit que la lumière. Pourquoi on doit dire que la Neshama est liée, à la Chorma? Et là, c'est très puissant ce qu'il va dire ici. Il dit parce qu'en vérité, Chorma, c'est une étape dans laquelle tu ne comprends pas. Et ça, c'est contrairement à notre logique. Mais on croit que Chorma, c'est que tu comprends. Il dit non, Chorma, tu ne comprends pas. Chorma, t'as un flash. Tu sens qu'il y a une réponse, tu sens qu'il y a une lumière, tu sens qu'il y a une piste. C'est une piste qui t'a été inspirée. Ton cerveau t'a inspiré une piste. Mais pour l'instant, t'as rien compris. Et c'est pour ça que ça nous arrive des fois, et c'est très frustrant, quand des fois t'es bloqué sur un problème, tu sens que t'as une idée, mais tu prends pas le temps de développer l'idée parce que bon, entre temps, tu réponds à un coup de fil, tu fais autre chose. Et après, tu dis, mais mince, c'était quoi l'idée? Et c'est fini, elle t'est passée sous le nez, c'est fini, tu l'as oublié. Parce que Chorma n'est pas logique. Chorma, c'est quelque chose qui est au-delà de la logique. Et donc là, avec ça, il répond à la question. Il te dit, quand le Zohar te dit, et quand c'est écrit clairement partout, c'est écrit que la Neshama est liée à la Chorma, ça ne veut pas dire que la Neshama est liée à l'intellect. Non. La Neshama, on dit bien, est liée à la Chorma. C'est quoi Chorma? Chorma, c'est ce qui est au-delà de la compréhension. Bina, c'est la compréhension. Chorma, c'est le flash. Et c'est ça, en vérité, ce qui explique le fait qu'un juif, des fois, il se réveille le matin, et tout d'un coup, il sent un flash, il a envie de bien se comporter. Il sait pas pourquoi. Tu te lèves un matin, tu te dis, aujourd'hui, j'ai envie d'assurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux même pas expliquer. Tu te dis, mais pourquoi tout d'un coup, un matin, je me lève, j'ai envie d'assurer? C'est ni Rosh Hashanah, ni Yom Kippour, ni rien du tout. Tu te lèves un matin, tu te dis, tiens, je vais aller à l'office. Tiens, je vais rajouter un cours de Torah. Tiens, je vais. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que tu as eu un éveil de la Chorma. De la même manière que dans les affaires, ça peut nous arriver d'avoir un flash qui te donne une idée d'avoir dans les affaires, et ben, de la même manière, la Neshama, où est son siège, et dans la Chorma, ça veut dire que c'est au contraire au-delà de l'intellect. Et ça, c'est très important ce qu'il dit ici. Parce que Grâce à ça, on arrive à la conclusion que la Neshama, c'est au-delà de l'intellect. Or, si c'est au-delà de l'intellect, ça concerne tout le monde. Ça concerne un enfant, ça concerne un bébé, ça concerne un ignorant, ça concerne un génie, ça concerne tout le monde. Si la Neshama était liée à la compréhension, si être juif c'était lié à la compréhension comme dans d'autres religions, que c'est lié à une compréhension, c'est lié à une théorie, c'est lié à des choses qu'on doit comprendre, dans ce cas-là, celui qui l'a, il l'a, celui qui l'a pas, il l'a pas. C'est-à-dire, si tu as réfléchi, tu l'as, tu n'as pas réfléchi, tu l'as pas. Viens, le Chidouche de Morazek, ici, il t'explique, il te dit non. Il te dit, être juif, c'est au-delà de la compréhension. Être juif, c'est pas quelque chose qui est lié à la compréhension. Et quand on dit que c'est Chorma, parce que Chorma, c'est des réflexes. De la même manière que ton cerveau a des réflexes, qu'il a un réflexe de vouloir faire ça, de vouloir faire ça, et ben, de la même manière, être juif, c'est presque un réflexe. Un réflexe, c'est pas quelque chose qui vient chez un adulte, c'est pas quelque chose qui vient chez un enfant, c'est quelque chose qui est lié, qui est inhérent à l'homme. Et c'est quelque chose qu'on peut pas enlever. C'est très très compliqué à enlever, et même quand on croit qu'on l'enlève, on s'enlève pas. C'est ça qui va expliquer aujourd'hui. Être juif, c'est lié à un niveau qui est au-delà de la compréhension. Donc, puisque c'est lié au-delà de la compréhension, c'est au-delà de tout niveau de pratique. Même si tu as une personne qui n'est pas pratiquant, il continue quand même à rester juif, puisque la chorma, c'est au-delà. La chorma, c'est au-delà de la compréhension. D'ailleurs, il rajoute ici un détail très important. C'est quoi? Il dit, c'est quoi chorma? On va décomposer le mot chorma en deux. C'est quoi chorma? Chorma, c'est, si je décompose le mot en deux, ça me donne koach, ma. Koach, c'est quoi koach en hébreu?
Courage.
La force. Ma, c'est quoi ma? Ma. Ma. Ma, c'est ma. Ma. La force du quoi? C'est quel rapport? Quel rapport? Au contraire. J'ai envie de dire, mais la chorma, c'est pas la force du questionnement. C'est là où je trouve les réponses. Qu'est-ce qu'il me raconte la force du questionnement? Il explique ici un très grand ridouche. Il dit comme ça. Il dit, en vérité, pour que la chorma arrive, il faut passer par une étape qu'on va développer tout de suite qui s'appelle le bitoul. Et ça, vous allez voir qu'on peut l'appliquer dans notre vie. C'est quoi le bitoul? Le bitoul, c'est l'annulation. Ça veut dire comme ça. Tant que tu te sens orgueilleux, tant que tu sens que tu as tout compris, tu peux rien trouver comme idée. Tant que tu sens que tu as tout compris, tu comprends rien. Pour passer, pour recevoir l'idée d'Akadosh Baruch Hu, pour que l'idée vienne dans ta tête, il faut que tu passes par koachma, la force du questionnement, de tout remettre en question et de dire « j'ai pas compris ». Et quand tu fais le vide, c'est là que tu laisses la lumière de ton cerveau éclairer. C'est exactement la même chose quand on parle par rapport à un juif, la relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Tant que je pense que j'ai tout compris, que moi j'ai tout compris, je gère tout, j'arrive pas à me relier avec Akadosh Baruch Hu. Dès que je fais du vide, je dis attends, peut-être que j'ai pas compris à 100%, peut-être que je vais écouter ce que Dieu il a à me dire. Plus tu laisses la place à Akadosh Baruch Hu et plus Dieu y rentre. C'est-à-dire que c'est un grand chidouche qu'on dit ici. Dans la tête de beaucoup de gens, c'est quoi Chorma? Chorma, c'est l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, les gens ils disent, ben l'intelligence c'est celui qui a intelligence, c'est celui qui a tout compris. Viens, la Torah te dit non. L'intelligence c'est pas celui qui a tout compris. C'est celui qui comprend qui a rien compris. Vous me suivez? C'est ça la chorma. D'accord? La chorma, c'est comprendre que j'ai pas compris. Et quand tu comprends que t'as pas compris, koachma, la force du questionnement, c'est là qu'à ce moment-là que va venir l'idée qui vient d'Akadosh Baruch
Hu. Pourquoi je dois me poser toutes ces questions puisque vous avez dit tout à l'heure que quand on est juif, on a ça qui est inné en
nous. Oui, justement.
Donc, j'ai pas besoin de tout ça.
Alors, ça, c'est une bonne question. C'est vrai que j'ai tout ça qui est inné en moi, que vous avez raison, que j'ai pas besoin de réfléchir à tout ça. Seulement, il y a un problème. C'est que ça reste superficiel. Et là, je vais vous donner encore une autre Gemara qui est très connue. Je crois qu'on l'avait mentionné, ça fait quelques mois aussi. La Gemara, mais bon, faut toujours répéter ça. La Gemara, dans notre Tevachot, elle dit comme ça. Elle dit, c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est qu'un juif, ça peut arriver des fois qu'il a un voleur. Et un voleur, quand il est à côté du trou, avant d'aller, vous savez, le trou pour aller se cacher, pour aller voler, juste avant de, parce qu'une fois qu'il a commencé son larcin, il peut plus s'arrêter. C'est ça le vol. Le voleur, une fois qu'il a commencé, il faut aller jusqu'au bout. Et le voleur, avant de commencer son larcin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu, je t'en prie, aide-moi. C'est quoi le problème qu'il y a ici?
Il faut demander à Dieu de voler.
Alors, est-ce que c'est faux?
C'est contradictoire.
Est-ce que c'est une routine? Est-ce qu'il le pense, qu'il dit?
Ouais. Bah oui.
Abraham, qu'est-ce qu'il en pense?
Bien sûr. Ah,
mais c'est que sa croyance. Hein, ça.
Le bonhomme, il est là, il va faire un casse.
Bien sûr.
Et il dit, Dieu, je t'en prie, aide-moi.
Aide-moi à quoi? À casser ou ne pas casser?
Aide-moi à réussir.
Aide-moi à réussir.
À réussir le casse. Mais la Gemara dit clairement, comment ça marche? Comment c'est possible? Que le voleur, avant Apum Martarta, ça veut dire avant de rentrer dans sa cachette, Rahamanakaria, il invoque Dieu. Et la Gemara pose la question là-bas, elle dit, mais ça veut dire quoi? Soit ça veut dire que c'est pas un bon voleur, je sais pas. Soit ça veut dire que il appelle Dieu par routine. Et la Gemara répond, elle dit non. Comme a dit Avraham, elle dit non. Elle dit en vérité, ce juif-là, il est parfaitement sincère quand il invoque Dieu. Alors j'ai envie de dire, mais attends, s'il est parfaitement sincère quand il invoque Dieu, alors pourquoi il vole? S'il croit en Dieu, il doit comprendre qu'il y a un problème dans ce qu'il fait. Comment ça marche? Hein, Abraham, comment on répond à cette question?
C'est contradictoire.
On fait la kippa tous les jours et on fait la zarod.
J'ai compris, mais comment tu peux expliquer qu'au même moment, il demande à Dieu... Ah non, mais là, c'est... j'ai compris, mais il demande à Dieu une bracha pour voler.
Tu commences ta journée, tu fais ta kippa, tu vois ce que tu veux au bon Dieu, et après tu sors de la synagogue, tu fais des
bêtises. Ça, c'est peut-être encore, au moins, c'est deux actions différentes. Là, c'est dans l'action même, je demande à Dieu une bracha de réussir mon vol.
C'est qu'il a conscience que...
C'est bizarre, il y a un problème.
Il a conscience.
Comment c'est possible?
Il a conscience.
Mais on, comme tu as dit, tu as raison qu'on est en, on est en plein dedans dans tous les jours. On est en plein
parce que le fruit de ce vol, il va le mettre en tzedaka.
Non, mais ça ne change pas ça. Mais il sait que Dieu l'interdit. Il sait que Dieu l'interdit. Alors comment ça marche? La réponse est très simple. La réponse est très simple. C'est la Gemara qui explique. Elle dit, la émouna qu'un juif peut avoir, elle peut être superficielle. C'est quoi superficielle? Ça veut dire, il sait que voler c'est interdit. Bien sûr qu'il sait, on lui a dit que voler c'est interdit. Et il a aussi la émouna de Dieu. Mais c'est pas une émouna qu'il a intégrée. C'est une émouna qui est superficielle. Et quand tu es superficielle, c'est pas dérangeant. Tu peux en même temps vouloir voler et en même temps demander à Dieu de t'aider. Par contre, une fois que tu intègres la émouna, là, tu réalises qu'il y a une incohérence. Et ça, ça nous arrive souvent dans la vie. Que quand tu commences à intégrer des notions, tu dis, mais attends, il y a un problème là. Ça marche pas. Et vous savez, chez qui on retrouve ça souvent? Attendez, laissez-moi arriver. Chez qui on retrouve ça? Chez les enfants. Les enfants. Chez les enfants, tu te dis, mais papa, il y a un problème. Ça marche pas. Nous, tellement on a l'habitude des fois d'être dans le superficiel, qu'on peut faire une chose et son contraire en même temps. Du style, le bonhomme, il va prendre la voiture pour aller à la synagogue Shabbat. Tu vois, il a pris la voiture pour la synagogue Shabbat. Et presque, il a l'impression qu'il fait une mitzvah quand il prend la voiture pour aller à la synagogue Shabbat.
Et là, hein, la voiture pour aller à la synagogue Shabbat qui va pas à la synagogue.
Alors d'accord, attends, mais et là vient un enfant et dit, mais attends, il y a un problème là. C'est pas cohérent, ça marche pas. Ça sourd. Ça marche pas, non, c'est incohérent.
Mais j'ai compris que c'était assourd, mais au moins il vient.
Mais pourquoi il le fait?
Demain, tu sais pas.
C'est-à-dire que le bonhomme, mais comment tu peux expliquer que le bonhomme, il est persuadé qu'il fait une bonne chose, alors qu'au fond de lui, il sait que c'est pas bien. Il sait que c'est interdit, mais il le fait quand même. Comment c'est possible? Parce que c'est superficiel. Quand c'est superficiel, eh ben, ça te dérange pas de faire une chose et son contraire en même temps. Et là, vient des fois un enfant, et l'enfant, ça peut être l'enfant qui est en nous aussi. C'est le côté tamim, le côté intègre, le côté véridique qui est en nous, qui par moments se soulève et qui dit, mais attends, il y a un problème dans ce que tu fais, c'est pas cohérent. Ça veut dire que quand on est superficiel, on peut faire des catastrophes. Donc là, avec ça, je réponds à votre question. Vous avez posé une question, vous avez dit, mais puisqu'on a dit que de toutes les façons, chacun de nous, il a une émouna innée en lui. Alors dans ce cas-là, pourquoi se prendre la tête? Pourquoi se prendre la tête à réfléchir à Kadosh Baruch Hu? De toutes les façons, j'ai déjà ça en moi. Pourquoi tu veux que je réinvente la roue? La réponse est ici. C'est que si je me suffis simplement de ce que j'ai en moi, ça peut être superficiel. Comme on le voit clairement dans la vie autour de nous. Dans la vie chez nous.
Comment Dieu va mettre quelque chose d'artificiel en moi?
Non, c'est pas dit artificiel.
Superficiel.
Même superficiel.
À développer.
Bien sûr. Dieu il met quelque chose qui est en potentiel, qui est là. Ouais. Qui est pas développé. Si je le développe pas, il reste là. C'est-à-dire, je vis avec, en sachant que je l'ai, mais je ne l'ai pas développé. Quand tu prends le temps de commencer à le développer, là, ça prend une autre tournure dans ta vie. Ça veut dire que c'est un très grand ridouche qu'on dit ici. C'est qu'en vérité, être juif, c'est pas développer une nouvelle chose. On fait que développer quelque chose qu'on a déjà en nous. Qui est déjà en nous, mais qui était superficiel. D'accord? Être superficiel, c'est ce qu'on a dit. Ça veut dire, c'est être juif. Enfin, c'est pas traditionnaliste, parce que moi, j'aime pas trop ce mot, mais c'est très bien d'être traditionnaliste. Mais ça veut dire, bon, voilà, être juif et faire une chose et son contraire en même temps, sans que ça le dérange. Tu comprends? Ça veut dire, voilà, c'est pas que ça me dérange pas de faire le kidouche et d'allumer la télé après. Et le kidouche, c'est le kidouche, la télé, c'est la télé. Et c'est tout. Ça, c'est superficiel, ça. Et là, t'as un enfant qui débarque, qui dit, mais attends,
non,
problème.
Mais avant, le
non, mais je sais pas, je sais pas, le bonhomme. Il fait le kidouche, fait le côté sacré, après, il range le livre. Prend la kippa, il la pose, et maintenant, hop, il allume la télé, il passe à l'autre chose. Et ensuite, tu as 0-1, 0-1. Et là, alors, je fais une caricature. Mais des fois, la vérité, c'est que des fois, on est comme ça. Abraham, je te dis, des fois, on est comme ça. Ça veut dire, tu fais, vraiment, t'es à la synagogue, t'es comme ça, t'es dehors, t'es autre chose. Et là, vient le Emet qui te dit, quand tu réfléchis à tout ça, qui te dit, il y a un problème. Donc, je reviens à notre sujet. Il faut comprendre que la Neshama est liée à quel niveau? La Neshama est liée au niveau de la Chorma. Pourquoi la Chorma? Chorma ne veut pas dire j'ai compris. Chorma veut dire j'ai compris que j'ai pas compris. Et quand je comprends que j'ai pas compris, c'est là qu'est la lumière qui arrive. D'accord? Ça veut dire que très souvent, je vous donne une technique. Si vous avez des fois un problème dans la vie, vous êtes devant un dilemme, vous êtes devant une question, vous êtes devant l'obscurité, vous sentez que vous n'arrivez pas à trouver la solution, c'est que peut-être que vous pensez l'avoir trop compris. Et en essayant de faire le vide, de dire bon, Je vais essayer de reprendre cette, je vais essayer de faire une nouvelle approche, comme si c'était une nouvelle chose. Reprends détail par détail. Et tu reprends. Et fais comme si que tu connais pas. Et quand on reprend détail par détail, koachma, la force du questionnement, c'est là qu'on trouve des choses extraordinaires. Parce qu'en vérité, quand on croit qu'on a compris, on donne comme ordre à notre cerveau, arrête de réfléchir. Quand tu expliques à ton cerveau que non, j'ai pas compris, là tu lui dis, j'ai pas compris, donne-moi une idée, aide-moi. Et là le cerveau est capable de trouver. Ça c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours, dans le business, dans la Torah, dans tout ce que vous voulez. C'est que pour comprendre qu'on n'a pas compris, il faut expliquer pourquoi on n'a pas compris. Et c'est là qu'arrive l'intelligence. Donc c'est la même chose. Là il dit c'est la même chose par rapport à Kadosh Baruch Hu. Tant qu'un juif pense qu'il a tout compris et qu'il est religieux et qu'il est fier de ce qu'il est, il peut plus avancer dans la Torah. Quand tu penses t'atteindre une vitesse de croisière et que tu penses maintenant je suis bien, comme je suis bien maintenant. J'ai mon petit Shabbat, mon petit truc, je bouge pas. Et tu dis, quand tu es comme ça, tu peux plus avancer. Parce que ta neshama, tu lui as donné l'ordre, arrête de me donner de nouvelles idées, je suis bien maintenant, je suis en vitesse de croisière. Pour pousser ta neshama à avancer, c'est comme la chorma. Tu es obligé de lui dire de faire un vide, pas d'arrêter de faire les mitzvot, de te dire, est-ce qu'il me manque pas quelque chose? Et quand tu commences à faire le vide et tu reprends ton approche, c'est là que tu vois qu'il te manque des choses et c'est là que tu vas renouveler ton attachement avec Akadosh Baruch Hu. Donc dans les mots du Tanya, Chorma est égal à Koachma, la force du questionnement. Chorma est égal à Bitoul. Retenez bien ce mot, Bitoul, on le retrouvera plus tard. C'est quoi Bitoul? Bitoul, c'est annulation. Je m'annule. Pas je m'annule dans le sens j'existe pas. Je m'annule dans le sens je casse un peu mon ego. Quand tu casses ton ego, c'est là que ça rentre. Il y a un dicton dans la Gemara qui dit comme ça, qui dit Kli rekan machazik, kli malé eino machazik. Traduction, un récipient vide peut contenir, un récipient plein ne peut plus contenir. Ça veut dire, quand tu crois dès le départ, tu viens à un cours, tu viens à un endroit, tu parles à quelqu'un, et que tu penses qu'il a rien à t'apprendre, il peut rien t'apprendre. Même si c'est un génie, parce que toi tu penses que ton verre est plein. Même si le bonhomme il vient à une conférence, mais il pense qu'il a tout compris, il pense que l'autre n'a rien à lui apprendre. Quand tu penses que tu as tout compris, ça ne peut pas rentrer en toi parce que tu penses que tu as tout compris. Si tu veux que ça rentre, il faut faire le vide. Il faut faire le vide pour se dire, c'est comme si que j'ai rien compris. Et ça, c'est un effort à faire. C'est un effort à faire, l'effort de Chorma, l'effort de se dire, c'est comme si que j'ai rien compris. Ce qui va expliquer ici maintenant aujourd'hui. Là, j'ai fait beaucoup à l'oral, on va aller dans les mots.
Bien que celui qui va à une conférence, qui croit avoir tout compris, il ne va pas dans cette conférence. Parce qu'il sait qu'il a tout
compris. Sa femme lui a cassé les pieds, elle a dit, viens, on y va.
Il n'a pas à se présenter à une telle conférence.
Vous avez raison. Mais ça arrive des fois dans la vie qu'on vient à des endroits, on est dans des situations dans lesquelles on pense qu'on n'a rien à apprendre. S'il n'a rien appris, c'est que forcément, ouais, dans sa tête, dès le départ, il voulait pas apprendre. Il pensait qu'il n'avait rien à apprendre.
Ça le barbe aussi. Bon.
Ça n'existe pas. La Gemara nous donne un principe très simple. Un principe, retenez ce principe. Elle dit « En bet amidrash blo chidush ». Une maison d'études, ça veut dire toute une étude sans chidush n'existe pas. Même si tu étudies le même texte tous les jours, 15 fois par jour, chaque fois que tu vas l'étudier, tu trouveras quelque chose de nouveau. Seulement, le seul piège, c'est quoi? C'est que comme avant de commencer le texte, tu te dis, je le connais déjà, je l'ai déjà vu, donc t'arrêtes de le regarder. Prenez un exemple. Prenez par exemple la route que vous allez faire ce soir maintenant pour rentrer chez vous en voiture. Là, ce soir, vous allez faire après le cours, vous allez prendre votre voiture, vous allez rentrer chez vous en voiture. La route, vous la connaissez par cœur. Puisque vous la connaissez par cœur, la route, du coup, vous n'analysez plus les détails qu'il y a dans la route. C'est possible qu'entre-temps, il y ait des petits détails qui ont été rajoutés. Et des détails que vous n'avez jamais remarqués. Écrit, va dire, tu sais, oui, je t'attends ici, à côté de là-bas. Tu dis, ah bon, il y a un magasin comme ça, je ne savais pas. Comment tu ne sais pas? T'es passé des milliers de fois devant ce magasin. Parce que comme j'ai donné le message à mon cerveau, je connais l'endroit, il a arrêté de regarder, c'est fini, il ne regarde plus. Dans ma tête, je le connais. Si maintenant je me dis, attends, je vais regarder, ça fait 10 ans que je n'ai pas été là, je regarde qu'est-ce qui a changé, tu remarques ce qui a changé. C'est exactement la même chose. Quand je prends un texte et que je pense que je l'ai déjà compris, c'est fini, mon cerveau, il est bouché. Quand je comprends que peut-être j'ai quelque chose à chercher, ben là, quand je cherche, toujours, je trouve un nouveau chidouche. Et ben, c'est exactement la même chose par rapport à la neshama. Il te dit, le fait d'être juif n'est pas lié à la compréhension. Au contraire, c'est lié à le fait que je ne comprends pas. C'est lié au fait que je m'annule envers Akadosh Baruch Hu. Et là, on arrive à un autre point qui est très important. Dans le monde des goïms, enfin, je sais pas s'il fait dans le monde des goïms, mais dans le monde de ceux qui sont orgueilleux, plus une personne est intelligente, et plus il doit l'étaler. C'est-à-dire, plus il est là, regardez ce que j'ai, etc. Et on voit clairement que plus il est intelligent, plus il doit montrer qu'il est. D'accord? Plus il doit montrer qu'il a. Dans le monde de la Torah, c'est exactement le contraire. Regardez les tzadikim, comment ils sont. Plus ils sont tzadikim, plus ils sont humbles. C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est que le tzaddik, il est capable de te dire, mais j'ai pas compris. Tu dis, mais attends, mais si lui, il a pas compris. Qu'est-ce que je vais comprendre, moi? C'est que le tzaddik, en vérité, il a atteint un niveau qu'il a compris, qu'il a pas compris. Il a monté, il est monté, il a un niveau beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé. Parce que dans la Torah, on te dit, la plus grande force, c'est quand tu comprends que tu n'as pas la chose. Quand tu comprends que tu es loin d'être, quand tu comprends que tu es très, très loin d'atteindre la chose. Ça, c'est le plus grand niveau.
On est toujours très loin.
Mais le problème, c'est qu'on est, on s'en rend pas toujours compte. Des fois, on croit qu'on est bien. Et quand tu crois que tu es bien, tu t'arrêtes de te trouver. Or, comme le tzaddik pense qu'il a toujours à chercher, donc il cherche toujours et donc il trouve. C'est ça le problème.
C'est-à-dire qu'en fait, le haram, c'est celui qui se remet en question, c'est celui qui pose des questions.
Le haram, c'est celui qui se remet constamment en question.
Donc c'est se remettre en question, c'est pas poser des questions.
Bien sûr. Regardez quand on est une page de Gemara. On remet tout en question.
C'est pas le haram de la Haggadah alors.
Quoi?
Le haram de la Haggadah.
Bien sûr, il pose une question le haram.
Il se remet pas lui en question, il lui pose une question.
Ça veut dire que, ça veut dire qu'il pose une question.
Il a plein de réponses.
Ça veut dire qu'il a pas compris. Il dit j'ai pas compris. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, ça. Il pose une question.
Il ne se remet pas personnellement en question.
Les gens, ils pensent, dans la tête de beaucoup de personnes, une personne intelligente, c'est une personne qui a tout compris. C'est comme ça que les gens pensent. Tu dis, c'est quoi une personne intelligente? C'est une personne qui a un mot à dire sur tout.
Non.
D'accord? Bien, la Torah te dit, c'est pas ça l'intelligence. Ça, c'est une personne qui aime parler. Celui que je viens de dire qui a envie de parler, là, c'est une personne qui aime parler. Il y a des gens comme ça. Chaque chose que tu vas parler, il a son mot à dire. Bon, il veut parler. Vas-y, raconte. Vas-y, t'es bon, t'as parlé, t'es content. Bon. C'est pas ça, un racham. Un racham, c'est une personne au contraire. C'est écrit dans Pirkei Avot, Ezehu racham, alomed mikol adam. Qui est le racham? C'est celui qui apprend de tout homme. Dis là-bas le commentaire. Il dit, ça veut dire quoi de tout homme? C'est-à-dire même d'un homme que tout le monde considère être un imbécile. Le racham est celui qui sait apprendre même d'une personne comme ça. Tu dis, mais attends, je comprends pas. Toi, t'es brillant, t'es intelligent. Qu'est-ce que t'as à apprendre d'Akhmar comme ça? La force du racham, c'est qu'il comprend que chacun a un message à lui envoyer.
Ils le disent dans le Pirkei Avot.
C'est le Pirkei Avot, ça. Et c'est au racham, alors même Nicolas.
Ah, il dit autre chose. Il dit, le vrai sage est celui qui ne dédaigne pas les leçons des autres.
Il dit dans Alomène Mikoladam, celui qui apprend, c'est la même chose. D'accord. Donc, encore une fois, on voit comment la notion de la Torah est complètement différente de la notion universelle. La notion universelle, une personne qui est intelligente, c'est une personne qui a tout compris. Dans la Torah, une personne qui est intelligente, c'est une personne qui se remet constamment en question. Constamment. D'accord? Je me rappelle une fois quand j'étais parti chez mon dentiste. Tu sais, les dentistes, ils aiment bien parler, le temps qu'ils vous mettent des trucs, etc., ils aiment bien parler avec vous. Alors, j'avais un dentiste, d'accord? Toujours. J'avais un dentiste comme ça, un juif, et je crois qu'il avait 14-15 ans, et il m'a dit, dis-moi, dans le judaïsme, c'est quoi le but? C'est de poser des questions ou d'avoir des réponses?
Ah oui, je sais que j'ai...
D'accord? Il dit, dis-moi, dans le judaïsme, c'est quoi le but? C'est d'avoir des questions ou d'avoir des réponses? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que tu en penses, Mickaël?
Avenir.
Je
pense que c'est avoir des réponses.
Eh bien, dans la Torah...
Ça va les bonnes questions, parce qu'à partir du moment où je pose une question,
c'est le questionnement. Le questionnement est d'une importance. D'ailleurs, regardez, dans la Guémara, qu'est-ce qu'on voit? Dans la Guémara, on voit très souvent, il y a des questions, il n'y a pas de réponses. Une fois, il y a un élève qui est venu voir un grand maître qui s'appelait le Rabbi Yosef Rougine. Et il est venu le voir, et avec une très très grande question. Une question énorme. Il pose la question. Et vraiment, il dit que j'ai posé cette question à plusieurs talmides et chachamim dans le monde entier, personne n'a répondu à cette question. Alors, Rabbi Yosef Rougine, il lui répond, il lui dit, va voir dans Tosfot, tel et tel daf, je crois que c'était Shabbat, daf kouf lamed, un truc comme ça, va voir dans Tosfot, tel et tel Tosfot, dans telle page. Alors, il ouvre la page, il rentre chez lui, il ouvre le Tosfot à la page de Gemara, et il voit, Tosfot, il parle pas du tout de la question qu'il a posée. Rien à voir. C'est un autre sujet, c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Et il cherche, et c'est pas possible, si le tzaddik qui m'a dit, c'est que certainement il est chacham, il doit avoir un remez. Et il prend la Gemara, il analyse 10 fois, 15 fois, 20 fois, rien, c'est pas le même sujet, on parle d'autre chose. Alors vraiment, il n'en peut plus, le lendemain, il revient le voir, le rav, il dit, mais écoutez, je comprends pas, ça parle, la Gemara que vous avez envoyée, j'ai peut-être mal retenu, mais ça parle pas de la référence, mais je sais pas, mais ça parle pas de ça. Il dit, ce que je voulais te montrer, c'est que là-bas, ce tosfot-là, il pose une question, et il reste sans réponse. Et pourtant, après, il y a un autre tosfot.
Donc, ça veut dire pas de réponse pour ta question.
Et ça veut dire, c'est pas parce qu'on a été bloqué sur une question qu'on n'a pas passé au tosfot suivant. Ça veut dire que c'est ça le juif. Le juif dit, bon, pose des questions. Bon. À un moment, t'es bloqué par une question, t'as pas de réponse. C'est pas parce que j'ai pas de réponse que je vais pas à la question suivante. Si mon but était d'avoir des réponses, si j'ai pas la réponse, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. Mais un juif, c'est pas son but. Le juif, son but, c'est le fait même de se poser des questions. Combien de fois ça arrive dans la Gemara des cas comme ça? Tu fais toute une souga, 10 pages. D'accord, à la fin, on te dit, finalement, il n'y a pas de réponse. Tu dis, attends, mais moi j'ai fait quoi là pendant 10 pages? Eh ben, t'as fait, t'as pas de réponse. C'est comme ça. Parce que le but, le fait même de se questionner, c'est admettre le fait qu'on n'a pas compris. C'est admettre le fait qu'on cherche quelque chose qui est plus élevé que nous. Ça, c'est la notion de Chorma qu'il explique ici. Dans les mots. Alors, on va aller un petit peu dans les mots maintenant. Je vais accélérer parce que j'ai expliqué beaucoup à l'oral. Alors, pour ceux qui ont le Tania, donc vous avez page 240. Alors, Iné à Chorma. Allez, Iné à Chorma, Himekor à Sechel via Aval. La Chorma est la source. De, donc, pour ceux qui ont le Tanya comme ça, c'est page Ravdalet. Ravdalet. Et la, de, la troisième ligne. L'étude du 9 Shvat. Hine a chorma imekor asechel ve'avana. La chorma, l'intellect, imekor asechel ve'avana, c'est l'origine du sechel, de la compréhension ve'avana. C'est quoi la chorma? Ve'hi le mal amabina. La chorma est plus élevée que la bina. C'est quoi la bina? Comme on va l'expliquer. Shehi avanat asechel vasagato. Qu'est-ce que c'est la bina? La bina, c'est la phase dans laquelle je comprends. Ça, c'est la phase numéro 2. Mais c'est quoi la phase numéro 1? Ce qu'on a expliqué longuement. Ve'a chorma, il est mal à me avana vasaga. La chorma est au-delà de la compréhension. C'est comme on a expliqué quand tu comprends que tu n'as pas compris. Ve'hi mekor la haine. La chorma est l'origine de la compréhension. Elle n'est pas la compréhension. C'est l'origine de la compréhension. Pourquoi elle est l'origine de la compréhension? On a expliqué. Vezeu lashon chorma. Voilà comment on peut décomposer le mot chorma. Koar ma. La force du questionnement. Ça veut dire la chorma, c'est pas comprendre. C'est comprendre qu'il y a un problème. Comprendre, c'est quelque chose qui tombe par rond. Ça même, c'est déjà la chorma. Et là, Kadosh Baruch Hu, il vient te donner la chorma. Shehu ma sheino musag umuvan. Ve'eino nitfas basaga adain. Ça veut dire que tu passes par une phase dans laquelle tu ne comprends pas. Et justement, tu n'arrives pas à saisir la chose. Qu'en vérité, ce qu'il te dit ici, il te dit que qu'est-ce qui se passe lorsque dans ma tête je fais le vide, lorsque dans ma tête je dis, j'ai pas compris, il y a un problème, je suis pas parfait, j'ai un problème. Quand tu fais le vide, Dieu il t'envoie un flash, c'est Dieu qui t'envoie ce flash-là. Mais quand tu as rempli ton cerveau, quand tu crois que tu as tout compris, tu laisses pas la place à Dieu. Quand ton verre est plein, Dieu il essaie de rentrer, mais tu le laisses pas rentrer, donc il rentre pas. La lumière de Dieu ne peut pas rentrer. Quand tu fais le vide, tu dis Dieu, écoute, j'ai rien compris, il faut qu'on reprenne tout complètement cette approche. Et ben là, c'est, il dit ici clairement, Or en sof baruch hu, c'est la lumière de l'infini. Et retenez bien ce qu'il dit, la lumière de l'infini. Est-ce que l'infini de Dieu est limité? Il est illimité. Ça veut dire que Dieu peut trouver des solutions à tous les problèmes. Ce n'existe pas un problème qui n'a pas de solution. Plus tu fais le vide, plus tu trouveras la solution au problème, plus tu trouveras la solution au problème que tu as.
Mais tu veux dire que Dieu il peut t'enseigner?
Bien sûr, d'où vient la chorma?
Non, mais par exemple, quand
d'où vient l'idée?
Oui, mais quand on vient dans un cours de, peu importe de Tania ou d'autre chose, c'est celui qui donne le cours ou ceux qui donnent le cours qui t'aident, qui t'apprennent. Et qui
alors imagine-toi maintenant qu'on est, tu viens au cours de Torah, tu écoutes le cours de Torah, d'accord? Et qu'à un moment tu comprends rien, tu dis mais je comprends rien ce qu'il raconte ici. Et à un moment, t'as un flash. Qui t'a envoyé ce flash?
D'accord, ok.
C'est Kadosh Baruch Hu. Même dans les affaires, tout le temps. C'est tout le temps Dieu qui t'envoie le flash.
Oui, d'accord.
Et le flash arrive quand tu fais le vide. Quand tu fais le vide, il faut admettre qu'il y a un problème. On veut pas admettre qu'il y a un problème. Quand tu admets qu'il y a un problème, tu admets que t'as pas compris, tu admets qu'il y a un problème, que c'est ton baron, tu fais le vide, c'est là que ça rentre. C'est là que Kadosh Baruch Hu peut t'envoyer le Or En Sof Baruch Hu, la lumière de l'infini.
Quand t'as pas de problème, toutes tes réponses sont, c'est Dieu qui te les envoie.
Alors justement, c'est le problème. C'est que quand t'as pas de problème, t'as pas de questions. Si t'as pas de questions, t'as pas de nouvelles réponses. Tu restes en stand-by.
Il y a des problèmes universels.
D'accord.
Tes problèmes à toi, je les ai peut-être résolus, moi.
J'ai compris. Mais c'est ce qu'il te dit ici. Un juif, il peut vivre toute sa vie sans se remettre en question. Et il peut avancer comme ça.
Me remettre en question sur des problèmes que je n'ai pas.
Tu as raison. J'ai pas dit. Seulement, ce qu'il t'explique, c'est que si tu te remets pas en question, ça veut dire si tu essayes pas de réfléchir comment je, qu'est-ce qui ne va pas dans ce que je peux faire ou bien qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que, tant que tu te remets pas en question, tu ne trouveras pas de nouvelles idées. C'est comme même dans les affaires, c'est comme ça. Quand une personne a une affaire qui tourne, si à un moment il se pose pas la question, il fait pas un inventaire de dire est-ce que je peux pas améliorer quelque chose, jamais il améliorera. Maintenant, ça peut tourner comme ça. Ça peut tourner comme ça pendant des années sans se casser la figure parce que ça tourne. Mais le bonhomme, s'il veut s'améliorer, s'il veut rajouter, il faut qu'à un moment il s'arrête. Il dit attends, je vais reprendre mon produit, je vais le reanalyser et je vais essayer de réfléchir qu'est-ce que je peux rajouter. Alors t'as un qui va dire mais pourquoi tu veux rajouter? Comme disent les Américains, si c'est pas cassé, hein, si c'est pas cassé, ne le casse pas. Pourquoi tu touches quelque chose qui casse? Pourquoi tu touches quelque chose qui fonctionne? Viens l'approche de la Torah et te dit c'est quoi le chacham? C'est celui qui comprend qu'il faut chercher. Pas forcément qu'il y a un problème. Celui qui comprend qu'il n'est pas parfait, qu'il n'a pas la perfection. Et plus tu comprends que tu n'es pas parfait, et plus tu donnes la capacité, la possibilité, pardon, à Kadosh Baruch Hu, de donner à ton cerveau la capacité de trouver, de trouver les bonnes idées. Donc ça, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. On l'a appliqué par rapport aux idées dans le business. On l'a appliqué par rapport aux idées dans la Torah, par rapport aux idées dans la famille, par rapport à tout ce que vous voulez. Et on peut l'appliquer aussi par rapport à la Neshama, à la relation de la Neshama vers Akadosh Baruch Hu, à l'avancée dans le judaïsme. D'accord ? Et comment justement ? On voit qu'il y a des gens qui sont religieux, mais qui n'avancent pas. Et d'un autre côté, tu as une personne, en un instant, il va faire une teshuva, et il va prendre tout le monde de court. Qu'est-ce qui s'est passé ? La réponse est très simple. Quand moi je suis déjà religieux, je me sens déjà plein. Donc je ne cherche pas autre chose. Donc finalement, je vais rester en vitesse de croisière, je ne bouge pas. Mais l'autre, celui qui vient de très très loin, il vient de très très loin, il est à côté de la plaque. Mais à un moment, il réalise qu'il est vide. Quand il réalise qu'il est vide, plus il réalise qu'il est vide, et plus la lumière elle rentre. Quand la lumière de sa neshama elle rentre, ça le fait exploser. C'est ça le problème qu'on a tous en vérité. Le problème qu'on a tous, c'est qu'on ne se remet pas en question. On reste comme on est, et on se contente de ce qu'on est. Donc on ne donne pas à notre neshama, on ne donne pas à notre cerveau, on ne donne pas à notre neshama la capacité de nous permettre de communiquer encore plus avec Akadosh Baruch Hu.
Ça veut dire que Hachem n'a pas la force de rentrer dans un calipe là.
Il peut pas rentrer. Tu le laisses pas rentrer, tu bloques. Tu as rempli.
Il est au-delà de tous les limites.
Dieu peut faire ce qu'il veut. Bien sûr, Dieu fait ce qu'il veut. Mais Dieu, il a créé un système dans lequel il te dit que si tu plains, si tu es rempli, tu peux pas rentrer. Et Dieu, et c'est comme ça.
Finalement, on n'est pas obligé de mettre tout dans le côté religieux.
Ah oui,
c'est dans la vie de tous les jours, je dois pas voler.
Voilà.
Je dois bien me comporter. Je dois bien parler. Je dois pas. Je sais pas, j'ai tous les défauts de la terre, par exemple. Tous les jours, je dois, dans chaque case, me dire voilà, ce jour, je vais faire comme ça. Mais il y a un travail énorme.
Le travail est énorme.
Accepté, par contre.
Mais par exemple, vous avez donné l'exemple, par exemple, être honnête dans les affaires. Je peux me dire, je suis honnête dans les affaires. J'ai rien à me reprocher.
À quel niveau ?
Peut-être. D'accord ? Mais quand quelqu'un se remet en question, on a vu chez les grands tzadikim comme ça, ils se remettaient constamment en question. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc ? C'est un petit truc. Pourquoi ? Parce qu'ils se remettent tout le temps en question. C'est pas qu'ils disent, bon, je suis religieux.
Ouais, c'est ça.
C'est pour ça qu'en vérité, j'aime pas cette étiquette de dire religieux, du style, ça y est, t'as un label, t'es religieux, check, c'est bon. Non, ça marche pas comme ça.
C'est ça.
Il faut pas avoir ce check-là. Il faut constamment se remettre en question. Constamment se remettre en question, se dire, qu'est-ce qui ne va pas?
Enfin, on nous dit, le message qu'on nous dit, c'est un truc qui est sans fin. Il faut tout le temps chercher, tout le temps chercher.
Comment il dit Shlomo Ameler? Oui, c'est Shlomo Ameler. Il dit, Ashrei Adam, Mefachet Tamid.
Pas de retraite.
Heureux est l'homme qui est heureux, heureux est l'homme qui a tout le temps peur. Dans le sens qu'il se remet tout le temps en question. Celui qui se remet tout le temps en question, c'est une personne qui réussit dans la vie. Celui qui arrête de se remettre en question, je dis pas qu'il va se casser la figure, ouais, mais il peut pas rajouter.
Il faut dire aussi que celui qui se remet tout le temps en question, il est tout le temps angoissé.
Non, j'ai pas dit angoissé.
Oui, parce que bon, oui. Se mettre en question pour ses affaires.
C'est pour ça que j'ai raconté l'histoire de tout à l'heure. C'est pas une angoisse. Je peux continuer à travailler, comme dit tout à l'heure. Tu peux arriver à un test-faute, il y a pas de réponse, on est passé au suivant. Bon. On va pas encore trouver de réponse. Ça viendra peut-être une autre fois. C'est pas un problème. Mais accepter le fait qu'il manque quelque chose. C'est important d'avoir la certitude. Mais au-delà des certitudes, tu as raison, parce que d'un autre côté, quand on n'a pas de certitude, on n'avance pas non plus.
Ben c'est ça, c'est
il faut les certitudes, mais de temps en temps, il faut se remettre en question. Il faut constamment, et ça se doit arriver constamment, avec une fréquence qui est une fois par mois.
C'est quoi, faire un bilan quoi.
Exactement, comme un bilan. Comme un inventaire, comme un bilan. Alors le bilan peut être une fois par mois, une fois par année, mais il faut un bilan. S'il n'y a pas de bilan, tu n'as pas de vide, et si tu n'as pas de vide, tu n'as pas de rochma. La chorma, c'est la relation avec Akadosh Baruch
Hu. Alors, quels sont les questionnements que je...
Pas forcément. C'est accepter le fait qu'il y a un vide. Accepter que je ne suis pas parfait. Accepter qu'il me manque quelque chose. C'est pour ça qu'on a dit chez les grands tzadikim, s'ils sont humbles. C'est quoi une personne qui est humble? C'est une personne qui pense qu'il n'est pas parfait. Il dit, mais moi, je suis rien. Alors, t'as envie de dire, mais attends, c'est un mytho, le bonhomme. Lui, il est rien. Si lui, il est rien, nous, on est quoi? Il pense vraiment qu'il est rien. Il pense vraiment comme ça. Il est sincère. Tu m'attends, moi, je pense que je suis quelqu'un, lui, il pense qu'il est rien.
Mais parce qu'il a la conscience d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il dit ça.
Mais pourquoi? Mais comment elle est venue? Pourquoi elle a la conscience d'Akadosh Baruch Hu?
Parce qu'il a voulu avoir la conscience d'Akadosh Baruch Hu.
Mais non, pas du tout. Parce qu'il a fait le vide.
D'accord, ok.
Plus tu fais le vide, plus tu l'as d'entrée Dieu. Et après, ça tourne. Et plus c'est la conscience de Dieu, et plus tu t'annules. Et plus tu as la conscience de Dieu, plus. Et c'est comme ça, ça avance. D'accord?
Aujourd'hui, maintenant, on fait des applications pour la santé connectée. Sur le sang, sur les artères, sur le jaune. Donc quand ça prend vraiment sur nous-mêmes. On dit attention, là tu vas faire telle chose au niveau santé. On va faire attention à ce moment-là, on va peut-être voir le médecin, on va aller. Donc là on fera quand même plus attention parce que là on a compris. On a compris parce que là on sait qu'on est en danger. On va pas se laisser aller.
Donc il faut accepter qu'il y a un problème.
Non, au contraire, si je vois qu'il y a un problème, je vais mettre de l'ordre. Si j'ai un problème de sang, ça va pas aller, je vais aller voir un médecin. C'est connecté, ça veut dire que maintenant on peut connecter, on peut savoir la tension qu'on peut avoir le matin, etc. C'est de plus en plus maintenant.
Oui.
Donc on peut savoir le matin dès qu'on se réveille, on peut voir voilà, les paramètres qu'on a. peut pas tout à l'heure dire, voilà, tiens, là, ça va, là, ça va pas. On va pas se laisser aller, sinon c'est danger.
D'accord, donc c'est admettre, j'ai compris. Admettre qu'il faut vérifier.
Ça veut dire qu'on va se mettre à niveau.
Donc il faut vérifier constamment. Tout vérifier, oui,
mais. Donc c'est pareil pour le reste.
Pareil pour le reste, il faut constamment tout vérifier. Alors, on va continuer un petit peu dans les mots. Donc, Velachen, alors, ici, il explique, je voudrais ajouter encore un autre point intéressant qui explique ici dans ce commentaire, un détail intéressant. Il dit que des fois, ça arrive qu'on a la Chorma sans la Bina. J'explique. C'est quoi la Chorma, finalement? La Chorma, c'est la force du questionnement, mais la Chorma peut être aussi que des fois, on a des certitudes inexplicables. J'explique ce que je veux dire. On a expliqué longuement que c'est quoi Chorma, c'est quoi Bina. Chorma, c'est un flash. Bina, c'est quand je développe ce flash. Chorma, c'est accepter que j'ai un vide. D'accord? Bina, c'est je développe la Chorma qui est venue chaque jour. Maintenant, écoutez bien ce qui peut arriver. Et ça peut nous arriver dans la vie de tous les jours aussi. Ce qui peut arriver dans la vie, c'est que des fois, j'ai une certitude que je suis incapable d'expliquer. Par exemple, ma femme me dit, viens, on va là-bas. Moi, je sens pas. Je dis, je sens pas. Elle dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'essaie d'expliquer, mais il n'y a pas de raison. Et j'arrive pas à expliquer. Alors ma femme dit, s'il n'y a pas de raison, c'est que il n'y a pas de raison. D'accord? Cherche le problème, il n'y en a pas. Mais alors, moi, je suis honnête, je dis, mais je sais pas, il y a un problème, ça tombe pas rond. Mais j'arrive pas à l'expliquer. Et c'est pas forcément que je cherche les problèmes, j'arrive pas à l'expliquer. Ça peut arriver des fois dans la vie, et ça c'est important pour la Neshama, qu'on a la Chorma sans la Bina. Ça veut dire qu'on a la certitude sans le développement. La Chorma, c'est la certitude, j'ai fait le vide et donc j'atteins une certitude. Mais après, il faut être capable de prendre cette Chorma, cette idée, et de la développer dans les détails. Des fois, j'ai un flash, je vois quelque chose qui tombe par rond, mais j'arrive pas à l'expliquer. Et c'est très frustrant d'ailleurs. Alors il dit c'est la même chose. Et d'ailleurs, je vais vous donner des exemples dans la Gemara. La Gemara, elle raconte une histoire, dans la Gemara Betsa. Elle raconte, elle dit qu'une fois, Rav, le maître Rav, a dit une halakha au Bet HaMidrash. D'accord? Il a dit une halakha. Rav Kana et Rav Asi, qui étaient des élèves, qui étaient là-bas, sont venus, ils ont posé une question sur ce que Rav a dit. Rav, il a dit une halakha, ils ont posé une question, il a dit, mais ça tient pas la route. Et Rav n'a pas répondu. Il n'a pas répondu à leur question. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a vu? Il n'a pas regretté de ce qu'il a dit. Alors là-bas, d'accord, là-bas, les commentaires posent la question, tout se fait, ils posent la question, ils disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire? Tu dis une halakha, on te pose une question, tu réponds pas à la question et tu continues à faire comme ce que tu faisais. Ça s'appelle un tétuse. Qu'est-ce qu'il dit, tout se fait? Il dit non. Il dit, l'orach le hachiv. Il dit, il n'a pas daigné répondre. C'est-à-dire qu'il n'a pas daigné répondre. Je comprends pas, c'est de l'orgueil, ça.
Ouais.
Alors, les commentaires, ils disent comme ça. Ils disent qu'en vérité, Rav, il avait un niveau de certitude qu'il n'était pas capable d'expliquer ça dans des mots. Mais il savait que la vérité était là. D'ailleurs, des commentaires qui rentrent après pour expliquer qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire, des fois, ça nous arrive comme ça aussi dans la vie. T'as un truc que tu sens qui tombe par rond. Et donc, tu dis quelque chose, tu donnes une halakha. Parce que toi, tu vois comme ça la chose. T'essaies d'expliquer, t'arrives pas. Et pourtant, t'es persuadé que c'est comme ça. Et quand on te demande, mais comment explique-moi, t'arrives pas à l'expliquer. Ben, il dit, c'est la même chose. Pourquoi je parle de ça maintenant? On a dit que la neshama était liée à la chorma. Et ben, c'est la même chose. Des fois, quand on a la chance, on a la chorma et la bina. Ça veut dire, j'ai le flash, j'ai la lumière d'être juif, et j'ai la bina, j'ai le développement, c'est-à-dire j'arrive à me l'expliquer, j'arrive à me développer. Mais des fois, ce qui arrive, c'est qu'on sent une relation très très forte avec Dieu, donc la chorma, ça veut dire que je sens quelque chose de très fort, mais quand j'essaye de le faire descendre dans la vie de tous les jours, j'essaye de me l'expliquer, j'essaye d'avancer, j'arrive pas. Ça arrive aussi. Et ça arrive chez des gens, des fois, qui sont très loin de la Torah, qui n'ont pas de bina, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun développement, ils n'ont rien, ils font rien du tout. Ils n'ont pas de développement, mais ils sentent une grande proximité avec Dieu. T'as envie de te moquer de lui, tu dis, mais quoi, quelle proximité, tu fais rien, bonhomme, quelle proximité? Eh bien, il te dit, c'est possible. Si le judaïsme était lié uniquement à la réflexion, là, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit, mais t'as rien compris, si tu dis que t'as rien compris, c'est que t'as rien compris. T'es là en train de, comment on appelle ça, t'es un illuminé. Mais viens, on te répond, on te dit non. Il te dit, la neshama est liée à la chorma. La chorma, c'est le flash. C'est une phase très très haute de la compréhension, mais qui va pas forcément se développer dans la bina. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? Ce qui peut arriver, c'est qu'un juif, il n'a pas de bina, il n'a pas de développement, mais il a un flash au fond de lui, il sait que la vérité est là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est que dans la vie de tous les jours, cette neshama ne se développe pas du tout. Mais à un moment, quand on va l'amener devant une église, on va lui dire, convertis-toi maintenant. Là, tout d'un coup, il dit, non, je le fais pas. Pourquoi tu le fais pas? Qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi il le fait pas? Parce que là, tout d'un coup, il y a cette vérité de sa chorma qui est revenue, qui lui a dit, ça, tu ne peux pas le faire. Alors, ses amis vont lui dire, mais pourquoi tu peux pas le faire? T'as fait toutes les bêtises. T'as fait toutes les bêtises de la terre. T'as fait toute la avérote. Pourquoi tout d'un coup, cette avérote, tu veux pas la faire? Il a dit, non, parce que ça, je le sens pas. Mais pourquoi tu te sens pas? Explique-le. il n'est pas capable de l'expliquer. Exactement comme ce qu'on a expliqué par rapport à ça. C'est qu'il y a des gens qui sont capables d'expliquer leur Orma en Bina, il y a des gens qui n'ont pas fait l'effort, et donc du coup, ils n'ont que leur Orma sans la Bina. Voilà comment on peut expliquer qu'en vérité, être juif ne dépend pas du tout de la compréhension et du niveau de pratique. Le niveau de pratique, c'est comme la Bina, c'est quand je prends et je développe. Alors que la judéité, c'est la chorma, c'est le fait qu'au fond de moi, je sens quelque chose. Alors, des fois, j'ai la chance de prendre cette notion-là et de la développer dans la pratique. Des fois, les gens, ils ne le font pas. Donc, si tu ne le fais pas, ça reste ici, il n'y a pas de problème. Et des fois même, si tu ne le laisses pas s'exprimer, bah, il reste là, il reste caché. Mais il finira toujours par ressortir. Et quand il ressort, c'est une bombe. Mais même quand il ressort, des fois, tu n'arrives pas à trouver les mots et tu n'arrives pas à trouver la manière comment le développer. Combien de fois ça nous arrive, ça? Tu sens que tu dois faire quelque chose et tu sais pas quoi. Tu sens que t'es neshama, tu sens que j'ai envie de faire quelque chose, tu sens qu'il faut que je fasse quelque chose, et t'arrives pas à trouver, tu te trouves pas. Et concrètement, ça part comme ça, ça part en rien. D'où c'est venu ça? C'est venu de la neshama. C'est venu de la chorma qui est dans la neshama.
C'est-à-dire que la chorma, l'âme d'un juif, oui, ne peut pas se retourner pour aller vers une église.
Impossible.
Et ceux qui se sont convertis, par exemple?
C'était faux.
C'était faux, vrai ou faux.
C'est impossible. On ne peut pas se convertir. Parce que la Rorma,
il y a eu des cas. Qui sont convertis, du coup, il y a plein.
Hein. Il y a des gens qui sont convertis idéologiquement. Hein. C'est pas qu'on leur a mis un coup
de pied. Par la force des choses.
C'est les tocards. Ils ont réfléchi, ils se sont posé des questions, ils ont tout remis en question, ils ont dit, ah bah la vérité.
Tu sais que le profil numéro un des missionnaires, d'accord, c'est des gens qui sont, malheureusement, c'est des gens qui sont faibles. C'est-à-dire des gens qui sont. Il y a des missionnaires qui tombent dans les maisons, tu sais.
Oui, oui.
Qui vont chercher?
C'est pas des juifs, les missionnaires.
Qui vont chercher en général? C'est qui leur profil de type? Hein? Les gens qui sont faibles, les gens qui sont perdus. C'est une réalité, ce que je te dis.
Oui.
J'en ai vu plusieurs fois.
Il y a des gens très intelligents, pas forcément faibles psychologiquement.
Très rare, ça.
Ça arrive.
Il y a un manquement quelque part. C'est des gens qui n'ont pas eu d'éducation juive.
Non, mais quand j'ai une éducation.
La majorité des cas, on a vu beaucoup dans l'histoire des gens qui étaient très très loin de la Torah et qui ont pourtant donné leur vie pour un kadosh, en gros.
Oui,
parce que ça, c'est la chorma.
Oui, ça existe. Moi, je parle de gens qui étaient proches, qui sont éloignés, qui malheureusement se sont même convertis à notre religion.
C'est minime.
Et d'eux-mêmes, sans qu'on leur mette un couteau sous la gorge.
C'est minime. C'est des gens qui sont pas bien. C'est pas stable.
Alors,
il est pas né dans une famille religieuse, si tu veux. Il est pas né dans un contexte. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que, quand maintenant, vous avez des gens qui sont loin de la Torah, et que, quand leur copain lui dit, alors tu es juif, qu'est-ce que ça veut dire être juif? Il est pas capable de répondre. Tu dis, mais s'il est pas capable de répondre, c'est qu'il y a rien. Viens, le Tania, il t'apprend, et tu dis, non, c'est pas qu'il y a rien. C'est qu'il a que la Chorma sans la Bina. Nous, on a la chance, nous qui sommes religieux, au Hachem, on vient à Shomer Shabbat, on vient à un cours de Torah, on vient à un cours de Tania, etc. On a la chance d'avoir un petit peu la Bina. Ça veut dire que de comprendre les choses et d'essayer un petit peu de les descendre dans la pratique. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Donc eux, ils ont que la Chorma, ils ont que le flash. Ils sentent qu'il y a quelque chose de très puissant, mais concrètement, ils ne savent pas comment le développer. Donc du coup, ça part. C'est comme une idée que tu as. Comme tu ne l'as pas développée, tu n'as pas pris le temps de la faire descendre, et bien elle est partie.
Alors les autres, ils ont que la Chorma et pas la Bina.
Exactement. Alors, est-ce que c'est de leur faute, pas de leur faute? Ça, j'en sais rien, c'est pas le sujet d'aujourd'hui.
Mais alors, à ce moment-là, celui qui a la Rorma.
Donnez-moi un exemple concret.
Un chrétien.
Non, parlez des juifs.
Non, mais un chrétien qui a la Rorma et qui n'a pas la Bina, il se convertit au judaïsme.
Je parle des juifs. Alors, attends, moi je parle des juifs.
Alors,
on va créer des profils. Il y a un profil. Non, mais c'est très sérieux. Très sérieux ce que je dis. Regardez. En vérité, d'après ce qu'on va expliquer ici, il y a trois options possibles. Quatre en vérité. Parce que puisqu'on a deux, il y a quatre options possibles. Première option, c'est ni Chorma ni Bina. Deuxième option, c'est Chorma et Bina. Troisième option, c'est que Chorma. Quatrième option, c'est que Bina. Et je vais expliquer à quoi correspondent les quatre options. Première option, elle est impossible. Celui qui a ni Chorma ni Bina, c'est impossible. Parce que c'est impossible de trouver un juif qui ni il est religieux et ni au fond de lui, il sait qu'il est juif. Ça n'existe pas. Donc celui-là, on le zappe. Il ne vous reste que trois. C'est quoi les trois qui restent? On peut avoir le juif qui a Chorma mais qui n'a pas Bina. Ça veut dire, il a en lui la conscience qu'il est juif. C'est une conscience profonde qu'il est juif. Mais il n'a pas la Bina, il n'a pas le développement. C'est-à-dire concrètement, il n'est pas religieux dans la vie de tous les jours. On peut avoir aussi de l'autre côté des gens qui ont la Bina, c'est-à-dire qui sont religieux, mais que concrètement, leur Orma se développe très très peu. Ça veut dire qu'il n'a pas en lui la conscience d'être juif. Ce n'est pas qu'il n'est pas religieux, il est religieux, mais il développe très très peu cette conscience d'être juif. Il fait les halachot, il fait les mitzvot, mais il n'a pas cet Orma-là. Ça peut arriver ça aussi. Il l'a en lui, elle est cachée, mais il ne la développe pas. Quand ça s'appelle tomber dans la routine. Ça veut dire, j'ai une bina, j'ai une structure qui tourne, mais j'ai plus le flash, j'ai plus le feu, j'ai plus la passion. Il l'a pas. D'accord? Alors que le premier, celui qui n'est pas religieux, il peut avoir la passion d'être juif, mais il n'a pas la pratique. Ça, on voit très souvent ça. Les gens qui ont la passion d'être juif, mais il n'a pas la pratique. L'autre, il a la pratique, mais pas la passion. Le top, je pense, c'est celui qui a les deux. C'est celui qui a et la passion d'être juif, la chorma, c'est-à-dire le flash, et en même temps, il amène ça dans la bina, dans le développement. Alors, c'est pas facile, mais c'est ça notre but. Notre but, c'est d'arriver aux deux, chorma, bina. De prendre le flash et de le développer, de le développer dans les détails. Donc, avec ça, ce qu'on a compris, c'est qu'en vérité, le juif qui se dit « je suis pas juif », ça n'existe pas. C'est impossible. Parce que tout le monde a la chorma. Tout le monde a cette relation profonde avec Akadosh Baruch Hu.
Oui. Pourquoi le flash, la chorma, ne vient que devant l'église?
Parce que la chorma, elle vient dans un moment dans lequel tu sens qu'il y a un problème.
Pourquoi quand je transgresse Shabbat, je n'ai pas aussi ce flash?
C'est une bonne question. Ça, on va développer dans la suite. Vous entendez la question qu'il pose? Il dit, mais il y a un problème. Quand ce juif-là, il a eu un flash qui est venu quand il est venu devant l'église. Il va se dire, c'est pas possible, je ne peux pas transgresser la volonté de Dieu. Pourquoi il n'a pas eu ce flash quand il voulait aussi profaner Shabbat?
Non, mais c'est pas la même chose.
Pourquoi c'est pas la même chose? Ah, pourquoi c'est pas la même chose? Pourquoi?
Attends.
Que c'est un choix personnel.
Attends, pourquoi c'est pas la même chose?
C'est trop, là.
Pourquoi rentrer dans une église?
Non, mais c'est trop. C'est...
Pourquoi c'est trop?
Non, c'est trop. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Mais
trop.
Dieu a dit de ne pas profaner Shabbat. Pourquoi?
Ça va, d'accord.
Profaner Shabbat, c'est moins grave qu'en rentrer dans une église?
Non, c'est pas ça. Mais c'est-à-dire, tu passes grave. De l'autre côté de la rive. Hein, ça n'a rien à voir.
Mais plus loin, le flash, qui c'est qui lui met le flash? C'est le bon Dieu. Pourquoi il lui met que devant l'église?
Non, mais là, tu passes de l'autre côté de la rive. Mais c'est pas possible. Après, c'est contre toi. Alors, tu passes de l'autre côté de la rive.
C'est vrai que dans l'esprit commun, il y a des choses très très graves.
Alors, c'est ce qu'il va expliquer dans la suite. C'est ce qu'on va dire tout de suite. Ce qu'il va expliquer dans la suite.
Tu fais un interrogatoire.
D'accord. Oui.
Ouais, mais bon. Les Romains, ça s'arrange.
Oui.
Ils ont pris un juif qui s'appelait Yosef. C'est grave. Tu rentres dans une église, c'est pareil. Il y en a un rapport à soi. Prendre le bataille d'âge, voler ce que tu veux. En soi, c'est pas un
interrogatoire.
Se convertir, oui, c'est pris.
Il
est rentré, il a volé la menorah. Par contre, quand on voit la Torah, c'est maintenant que l'honneur, on rentre, on voit autre chose. Il a dit non, je ne rentrerai pas. Ils l'ont martyrisé, etc. Il n'est pas rentré, ils vont tuer. Il a pris. Oui, oui. Une seconde avant, il rentre, il vole, et après, il fait tchouva. C'est quoi le truc? Le flash qui est venu comme ça.
Oui, on va expliquer.
En fait, c'est qu'il a fait tchouva, c'est pas que c'est un flash. C'est carrément une tchouva gmoura. Quand le juif, on lui demande de se convertir et qu'il ne veut pas et qu'il se fait tuer pour ça. Il s'est pas fait tuer parce qu'il s'est pas converti.
Non,
il a fait une chouvache. C'est-à-dire que
c'est sûr.
Je pense que si on l'avait laissé en vie, il aurait été chômeur.
Il a eu un flash.
Mais il aurait été chômeur Shabbat. Si
c'est sûr ça. Il a eu un flash. Mais la question qu'il faut se poser maintenant, c'est pourquoi ce flash est venu que maintenant? Pourquoi ce flash n'est pas venu avant de profaner Shabbat? C'est une question sérieuse. D'accord. D'ailleurs, c'est sur ça qu'il va baser ce chapitre-là. Une petite blague pour faire une petite parenthèse. Une fois, il y a le voleur de la ville, un juif bien sûr. Alors, une fois, c'est la veille de Kippour, il vient voir le rabbin de la ville. Il lui dit, voilà, j'ai volé. Il lui fait toute la liste de ce qu'il a volé, et je voudrais faire teshuva. Et il lui balance toute la liste. Alors le rabbin lui dit, bon, bah, comment on va donner un programme, comment tu vas faire teshuva? Et le rabbin, vraiment, il sent une sincérité chez la personne, donc il lui fait un grand seder de teshuva. Et le bonhomme, il part avec un grand sourire, il repart, etc. Bon, pas au Hachem, il a fait teshuva. Quelques instants plus tard, la femme du rav vient le voir, elle lui dit, mais dis-moi, le bougeoir du salon, il a disparu. Attendez. Alors le rav, il appelle le bonhomme, il dit, dis-moi, tu m'as menti ou quoi? T'es venu, tu m'as dit que tu fais teshuva, tu fais pas teshuva. Alors le voleur répond, teshuva is teshuva, business is business. Il pensait vraiment faire teshuva, mais... Bon, alors on reprend. La question d'Abraham. Il a posé une question, il a dit, mais pourquoi ce juif-là, il a eu ce flash qui lui a rappelé qui il était? Pourquoi il ne l'a pas eu plus tôt? Pourquoi il l'a seulement dans la situation extrême? Alors qu'en vérité, même transgresser le Shabbat, même transgresser une petite mitzvah, c'est aussi grave que rentrer dans une église. Tu profanes la volonté de Dieu. Dieu a dit non, tu dis oui, tu profanes.
Parce que c'est l'extrême
raison. La réponse est très simple. C'est que c'est un piège du Yetzer Hara. Écoutez bien. Le Yetzer Hara me fait croire que... Si je veux profaner Shabbat, je reste toujours juif. Alors que si je rentre dans une église, j'arrête d'être juif. Donc, comme le Yetzer Hara me fait croire, il me dit, écoute, c'est pas grave, tu vas profaner Shabbat, tu restes toujours juif. Donc, quand j'entends ce mot, je reste toujours juif, ma chorma est tranquille. On n'a pas touché à l'essentiel du juif. On ne lui a pas dit, on te supprime ça. Je me dis ça, c'est une erreur. Mais je me convainc que c'est pas grave. Même si je veux profaner le Shabbat, je reste juif comme il faut. Donc c'est pour ça que comme je me convainc que je vais rester juif, je continue à faire des avirot. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il va entrer dans l'église? Là, il a compris, et là même le Yetzer Hara peut plus lui dire le contraire, que si tu vas rentrer dans l'église te convertir, tu ne seras plus juif. Là, le Yetzer Hara peut plus lui dire le contraire. Donc puisque le Yetzer Hara ne peut plus lui dire le contraire, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Là, il va avoir un flash. qui va dire, mais non, c'est pas possible. Et donc là, il fait un blocage. Ce blocage, il aurait dû le faire en vérité avant chaque Avera. Pourquoi il l'a pas fait? C'est, il avait appelé ça ici, un shtout, une folie du Yetzer qui te fait croire que c'est pas grave si tu fais une Avera, tu restes toujours juif, donc tu peux y aller. Et ça, on est en plein dedans. Ça veut dire que voilà, je fais une Avera, je lui dis, c'est pas grave, je suis religieux. Pas grave, je suis juif, t'inquiète pas, je suis juif quand même. Ça, c'est un piège du Yetzer Hara. Mais en vérité, en théorie, si on arrivait à se convaincre que pour chaque mitzvah, c'est aussi grave que faire Avodah Zara, que chaque fois que je fais une Avera, je me sépare de Dieu, ne serait-ce que pour un instant, eh bien, normalement, on aurait dû avoir ce flash avant chaque Avera. Mais le Yetzer Hara nous arnaque. Et c'est ça, c'est Dieu qui a donné ce pouvoir-là, de nous arnaquer, de nous faire croire que c'est pas grave. Rappelez-vous, la première fois que j'ai fait une Avera, une Avera que t'as jamais fait, comment tu t'es senti après avoir fait l'Avera?
C'est possible.
Hein, tu te sens très très mal, tu sens comme si que quelque chose qui s'est cassé en toi, dans ton identité, tu te sens mal. Après la deuxième fois, t'as moins. Troisième fois, pourquoi la troisième fois ça te dérange plus? Parce que tu dis ça va, j'ai pas changé. Ça va, je suis juif. Ça va. Bon, ça va, ok, un petit détail, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas mort, voilà. Ah, je me suis cassé le doigt de pied, je suis pas mort, je suis là, je suis encore en vie. Et ça veut dire que je me dis ça va, je suis toujours là. Ça, c'est le piège du Yetzer Hara. Parce qu'en vérité, rentrer dans une église et être profané le Shabbat, c'est aussi grave. Je vais aller plus loin. Regardez. Celui qui va rentrer dans l'église, est-ce que vous croyez que parce qu'il va rentrer dans l'église, il va arrêter d'être juif? Est-ce que parce qu'il va se convertir, il va arrêter d'être juif?
Non.
Donc en vérité, il n'y a pas de différence avec le Shabbat. En profanant le Shabbat, il n'arrête pas d'être juif. En se convertissant, il n'arrête pas d'être juif non plus. Seulement, le Yetzer Hara ne peut pas l'arnaquer sur se rentrer dans l'église. Il ne peut pas lui dire, tu continueras à être juif. Parce que là, c'est flagrant, je viens se convertir. Donc là, il est obligé de s'arrêter. Mais dans les autres cas, là, le Yetzer Hara lui raconte des histoires, et c'est pour ça qu'il arrive à côté. Mais ce qu'il veut expliquer ici, c'est qu'en vérité, cette notion de judéité, de conscience juive, elle devrait s'appliquer sur toutes les mitzvot. Et ça, en vérité, c'est une technique que l'Admor HaZaken va nous donner, qu'on va développer dans les chapitres suivants. Comment développer la conscience juive? Malheureusement, très souvent, la conscience juive se développe seulement dans les moments extrêmes. Et c'est une réalité, ça. On l'a vu clairement de nos yeux, on l'a vu clairement, que la conscience juive, que ce soit en politique, sur tout ce que tu veux en Israël, ici, en France, partout, la conscience juive se révèle quand il y a des moments difficiles pour l'homme Israël. Pourquoi elle ne se révèle pas tout le temps? Parce que tant que tu n'es pas devant la falaise et que tu ne crois pas que tu vas te casser la figure, eh ben tu dis, bon, ça va, on peut avancer. C'est exactement ce qu'on a expliqué ici. Dès que tu es devant la falaise, tu dis, attention, je suis juif. Je me rappelle, Chorma. Donc, en vérité, le travail qu'on va faire dans le chapitre suivant, c'est essayer de retrouver cette passion que va avoir, cette chorma que va avoir ce juif qui est devant l'église, essayer de la retrouver dans la vie de tous les jours. Et il y a des techniques, on peut arriver à des techniques. D'accord? Il y a des techniques qui vont nous expliquer comment arriver à ça et comment techniquement on peut se retenir d'une avéra comme ça. Comment déployer la même énergie pour combattre le Yetzer Hara pour une avéra basique, la même énergie qu'aurait déployé ce juif-là devant l'église. La même. Parce que c'est la même dynamique, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Dans les deux cas, je vais contre la volonté de Dieu, et dans les deux cas, de toutes les façons, je n'arrêterai pas d'être juif. C'est un piège du Yetzer Hara, c'est une arnaque, qui te fait croire, ça c'est grave, ça c'est pas grave. Les deux sont aussi graves l'un que l'autre, c'est kiff, c'est la même chose. Et pourtant, comme tu as dit, la réponse que tu as donnée, c'est la réponse que moi aussi j'aurais donnée. Tu dis, oui mais non, c'est pas la même chose, là, il a arrêté d'être juif. Non, il n'arrête pas d'être juif.
Non mais, est-ce qu'on peut pas dire que Akadosh Baruch Hu, il a donné un pouvoir de nous embrouiller au Yetzer Hara pour l'ensemble des fautes.
Ah c'est sûr, oui.
Et que pour l'Église, le fait de se convertir, ça change complètement les choses.
Ça change quoi?
Ah, c'est trop.
Parce qu'on lui a versé de l'eau.
Non, mais ça y est, c'est trop. Non,
ça change.
Non, mais tu peux pas.
Parce qu'il y a un monsieur qui lui a dit que vous êtes baptisé, et alors?
Non, mais tu peux plus aller plus loin. Ça y est, c'est fini.
Pourquoi?
Mais t'as franchi la
mer. Qu'est-ce que ça change?
Mais t'as changé.
Mais qu'est-ce que ça change?
Mais t'as changé de couleur. C'est fini.
Qu'est-ce que ça change?
Dans le shaker, c'est l'humain.
C'est quoi le problème?
C'est pas spirituel. Il y a rien de spirituel dans le
shaker. Bah oui, tu t'es trompé, tu peux revenir. Tu changes.
Je vois pas le problème. Parce qu'un prêtre il lui a dit t'es converti, alors c'est fini de convertir.
Un prêtre c'est rien.
Et s'il lui dit t'es mort, il est mort aussi?
Non.
Alors.
Non, ça veut dire que tout va avec. Ça veut dire il mangera plus cachère.
Mais il mangeait pas, déjà il mangeait pas cachère. Ouais. Il faisait rien.
La conversion c'est le dernier pas.
Pourquoi il est bloqué?
Non, mais ça veut dire qu'il s'éloigne encore.
La réponse est très simple, c'est qu'en vérité c'est aussi grave. En vérité c'est aussi grave. Et en vérité quand tu cumules toute la vérité qu'il a fait, c'est beaucoup plus grave que ce qu'il va faire. Parce que l'église quand il va rentrer, il sera pas à fond dedans. Il ne fera pas le tout son cœur. Alors que les autres avérotes, il les a fait à fond. C'est même plus grave ce qu'il a fait les autres avérotes. Seulement quoi? Le Yetzer Hara ne peut pas l'arnaquer sur ça. C'est trop fort. Il ne peut pas l'arnaquer, lui dire tu ne vas pas te convertir, il est en train de se convertir. Alors que dans les autres choses, il dit bon, Tu profanes le Shabbat, mais tu restes juif. T'es juif traditionnaliste, toi, l'étiquette. Hein, ok.
Ah, bien sûr, il est juif.
Alors, il fait des avérotes, alors. Hein.
La bina et la chouchma,
c'est toujours la même. Ils sont liés.
Ils sont liés, mais ils sont tous ensemble.
C'est deux phases, tout le temps. D'accord. Bina, c'est le développement.
C'est à développer. Non.
Voilà. Bina, c'est le développement. Chouchma, c'est le flash. On peut avoir, ça veut dire que constamment, tout genre. C'est toujours les deux.
On est en nous, c'est à nous, depuis le début.
Constamment, tout le temps. Et en vérité, dans notre vie, on passe toujours par les deux phases. Il y a des phases où on a plus de feu et des phases où on a plus de développement. D'accord, c'est constamment, on est constamment dans une de ces deux phases.
Donc si on récapitule le juif, c'est la Neshama Yetera qu'il a.
Voilà.
Elle est dans la
Chorma. C'est la Chorma, oui.
Elle est dans la Chorma.
Son siège est la Chorma. C'est la Chorma. Elle est comparée à la Chorma. Mais pas la Chorma dans le sens de l'intelligence.
Oui, non. Se remettre en question.
Et ça, c'est la Chorma, oui.
Pourquoi on a tout plein de livres?
Pourquoi on a plein de
On a plein de livres.
Parce que justement, c'est la question de ce Benita. Parce que le but maintenant de tous ces livres-là, c'est d'essayer d'intérioriser. Parce que si tu intériorises pas, ça reste superficiel.
Intérioriser quoi ?
Intérioriser ce message.
De se remettre en question ?
Non, intérioriser le message. La Chorma, c'est un flash. C'est-à-dire, dès que tu fais le vide, il y a un flash qui vient. Mais ce flash-là, si tu ne prends pas le temps de l'intérioriser, eh ben, tu peux tout de suite atteindre le cas du voleur qui, avant de commettre son larcin, il demande à Dieu, aide-moi. Parce que c'est superficiel. Le but de tous ces livres-là, c'est d'essayer d'intérioriser un message qui est déjà là. Dieu a déjà envoyé les signaux. Maintenant, on doit prendre les signaux satellites que Dieu a envoyés, on doit essayer de les intercepter et de les placer. Mais ils sont déjà là, les signaux. Tout est déjà là. On est là seulement en train de capter des choses que Dieu a envoyées. C'est tout. La Chorma est déjà là, on ne peut pas l'enlever. Être juif, c'est déjà là.
On les capte grâce à la remise en question.
Grâce à la Neshama, grâce à la remise en question. Ouais. Ah, quand on arrête de se remettre en question, on arrête de capter. Pas parce qu'on ne capte plus. Parce qu'on continue à capter. Mais on arrête de prêter attention à ce qu'on capte. C'est comme tout à l'heure, l'exemple, tu vas rentrer tout à l'heure chez toi à la maison dans quelques minutes. Tes yeux continuent à capter ce qui est autour de toi. Mais tu arrêtes de faire attention à ce que tu captes. Donc tu captes plus.
Je reposais ma question parce que j'ai pas compris.
Oui.
Si le juif, en fait, la façon que le juif a de rentrer en connexion avec Kadosh Baruch Hu, c'est de se remettre en question, c'est de laisser la place en faisant le vide.
Se remettre en question, je sais pas. En tout cas, faire le vide, oui. C'est-à-dire faire le vide et s'annuler par rapport à Dieu.
Est-ce que j'ai besoin du Dafkouf la mettre dans Shabbat pour faire le vide?
T'as pas besoin de ça.
Non, c'est une page de Talmud. À quoi ça me sert pour faire le vide?
T'as pas besoin de ça.
Mais j'ai quand même besoin d'étudier.
C'est une mitzvah d'étudier.
Pourquoi?
Parce que c'est Dieu qui a dit. Et c'est Dieu qui décide.
Dieu, il m'a demandé de faire des choses qui...
Mais quand j'étudie, ça me permet de mieux comprendre ce que je dois faire, donc mieux intérioriser. Si j'étudie pas, ça reste flou. Quand j'étudie, ça rentre...
Ce que je dois faire pour être un bon juif, c'est me remettre en question.
Non, pas me remettre en question. Me remettre en question et essayer d'intérioriser et de me poser la question de comment moi je vais changer. Il me faut un mode d'emploi pour ça.
Il faut évoluer.
Ce mode d'emploi, c'est la Torah. C'est la Torah qui me dit comment je vais changer, comment je vais évoluer, comment je vais intérioriser. Je suis obligé d'étudier pour intérioriser. Quand j'étudie pas, ça reste flou. Comme on a des gens qui sont persuadés qu'ils sont juifs et qui sont juifs BMF, mais qui sont pas pratiquants, ils font rien. Et dans leur tête, attention, si tu viens les voir, tu lui dis, mais vous n'êtes pas juif. Moi, je suis juif à 100%.
Ils sont pas juifs d'abord.
Parce que c'est faux en plus.
Oui.
Évidemment, c'est faux. Ok? Alors, dans les mots, on va faire encore quelques lignes, on va s'arrêter. Il dit, Velachen, c'est pour ça. On finira avec ça. Kol Israël. Chaque juif. Peu importe qui il soit. Afilu Anashim Ve'Amia Aretz. Même les femmes et les ignorants. On n'a rien contre les femmes, hein, attention. Alors, c'est juste ici que, bon, d'accord. Bon, c'est parce qu'à l'époque, les femmes, c'était ignorant. Ah. D'accord? Voilà, à l'époque.
Mais elles n'avaient pas besoin de connaître, puisque elles.
Ah, justement, ce qu'il dit
déjà fini.
Et au contraire, on remarque très souvent, les femmes ont plus d'émouna que les hommes. Ouais, pourquoi? Parce qu'une femme, justement, ce qu'il dit ici, nous on pense que Chorma c'est la compréhension, d'avoir compris. Mais d'après le cours d'aujourd'hui, que la Chorma c'est pas la compréhension, c'est le fait de comprendre que t'as pas compris. Comme plus tu es simple et plus t'as de Emouna. Plus tu es simple et plus tu te poses pas de questions, et plus t'as la pureté de la Neshama qui se développe. Quand tu commences à te poser des questions, tu dis ah je fais ci parce que ça, je fais ci parce que ça, tu bloques ta neshama, tu laisses pas s'exprimer. Quand tu vas commencer à dire je fais la cacheroute parce que les médecins ont découvert ça, je fais la mila parce que les médecins ont découvert les globules d'un tel et les globules d'un tel, tu laisses pas ta neshama s'exprimer, ta neshama elle est bloquée, elle est bridée ta neshama. C'est pour ça qu'on voit que les gens de l'époque qui étaient des gens simples, ils avaient une emouna parfaite. Parce que plus tu fais comprendre à ton cerveau qu'il a rien compris, et plus ta neshama peut s'exprimer. Et quand ta neshama s'exprime, elle est déjà prête, elle est déjà en train d'éclairer. Il suffit juste de ne pas la boucher, de ne pas l'obstruer. Ce qu'il dit.
C'est lui qui a la émouna.
Chez Aemouna,
quand on voit des gens qui mangent n'importe quoi, des huîtres ou quoi, tu vois, je leur explique, bon, je fais un cours qui dure un quart d'heure que j'ai tué du Rav Ben Chetri, extraordinaire. qui t'explique effectivement. Bon, bien sûr, tu aurais dit que c'est qu'il y a une autre raison spirituelle qui n'a rien à voir. Mais concrètement, tu peux expliquer aujourd'hui matériellement que quand on mange des poissons qui ont des nageoires et des écailles, ce sont des poissons qui nagent en hauteur, donc ils ne mangent pas les cadavres. On ne mange pas les huîtres et tout parce que ce sont enfin, les blagues, mais.
C'est une carotte.
Parce que oui, mais c'est vrai aussi.
Si maintenant il y a un scientifique qui prouve le contraire, t'as l'air de manger cachère ?
Non.
Alors
mais
c'est pas bon, il n'y a qu'un problème.
Ça
ne change pas que c'est une bonne carotte. Il faut des carottes pour les attirer, ces gens-là. Il faut une carotte, mais ça reste une carotte.
Mais moi, c'est les gens qui ont besoin pour leur histoire. Il a tout fait, c'est tellement fort. Bien sûr qu'il y a une raison.
Donc c'est pour ça.
Dans l'ensemble, il a quand même fait une raison matérielle.
C'est sûr qu'il y a une raison, il y a des raisons, bien sûr qu'il y a des raisons, il faut aller chercher les raisons.
Il y a raison, moi ça me convient très bien.
Très bien, il y a des raisons.
Tu manges des fruits de mer, si c'est dangereux, s'il mange des trucs, mais s'ils sont.
Toi, ça te convainc, mais il y a des gens qui vont te dire qu'ils mangent des fruits de mer et qu'ils sont parfaitement. Alors, on t'explique.
T'as des gens qui ont besoin.
Il y a des risques, mais un risque sur.
Des millions de consommateurs se trompent pas.
Oui, c'est vrai.
T'as des milliards de personnes qui mangent du porc et qui sont en bonne santé. Comment c'est possible ?
Il y a un risque sur un million et il y a un risque. Nous, on ne prend pas les trucs là.
Hein ?
Il y a un risque sur un milliard de.
Pourquoi nous, on ne le prend pas ?
On n'a pas le droit.
Qu'on n'a pas le droit.
C'est certainement bon. Pourquoi on n'a pas le droit ?
Tu penses vraiment que les milliards de personnes qui mangent du porc, ils se trompent ?
Nous, on n'a pas le droit.
Tout est bon. Si ça leur a pas été interdit, c'est qu'ils ne se trompent pas.
Oui, mais alors,
si vous partez
du principe qui consiste à dire.
Bon, mais c'est un autre thème, ça. Hein, bon, là, okay. En tout cas, je réponds à la question rapidement. De quoi ?
Démarche. D'expliquer ça. Akadosh Baruch Hu a créé l'humanité tout entière par les juifs.
Oui.
Et son but, c'est que toute l'humanité existe.
Oui.
L'auto, verra, la chaîne, etc. Donc il ne va pas permettre à une partie de l'humanité de manger, de s'empoisonner, et aux juifs, il va leur dire de s'empoisonner.
Il peut y avoir des parties du monde qui sont plus sensibles que d'autres. Comme tu travailles par exemple dans les yeux, d'accord ? Ben, un œil, c'est plus sensible que le doigt de pied.
Donc on est plus sensible.
Oui, bien sûr.
On a besoin des deux.
Ça peut s'expliquer, ça. Mais scientifiquement, c'est difficilement explicable.
Oui, mais enfin, sensible, mais on a le même corps, les mêmes
organes. Exactement, c'est pour ça que je viens de te dire, scientifiquement. Je ne dis pas, mais c'est pas grave. C'est ça la chorma, ce qu'on t'explique ici. C'est que la vraie chorma, la vraie mouna, c'est quoi ? La vraie mouna, c'est admettre qu'en vérité, ça nous dépasse. Et que plus tu mets de côté ton cerveau, et plus ça s'exprime.
Mais c'est la vérité.
Regardez la émouna qu'il y avait chez les grands-mères.
C'est certain.
Regardez cette émouna qu'il y avait chez les grands-mères, là. C'est vrai. Ils avaient une émouna pure, parfaite. Tu lui dis, mais pourquoi, mamie ? Qu'est-ce qu'elle te répond quand tu dis pourquoi ? C'est comme ça. C'est tout. Mais elle est persuadée. C'est le feu. Elle est persuadée.
C'est où ? C'est fini.
Mais comment elle arrive ? Comment, moi, pour arriver à cette conclusion-là, ça me prend des années. Elle, mais c'est comme ça. Et elle est persuadée. Parce que plus tu mets de côté le cerveau, et plus tu laisses exprimer. C'est pour ça qu'il dit ici. Chez Emouna, il est malamé à Dadva Saga, parce que la Emouna est plus élevée que la compréhension, qui pétille Amin le Chol Davar ve Arum Yavin. D'accord? On va s'arrêter ici. D'accord? Qu'en vérité, devant Akadosh Banrou, plus tu es naïf, mieux c'est. Plus naïf dans le sens, plus tu mets de côté ton intellect, et mieux c'est.
Mais c'est normal.
Donc, maintenant, ce qu'on va essayer de développer la semaine prochaine, ça, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui,
la Chochma Bina, c'est sans problème, je te dis la vérité.
D'accord, alors attends. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire maintenant la semaine prochaine, c'est d'expliquer concrètement comment le Tsar a fait pour nous avoir.
Oui.
C'est ça le piège.
Non, parce que, on le sait, on le vit.
En théorie, on se fait avoir, mais on ne comprend pas comment on se fait avoir.
On va se faire avoir encore.
C'est ça le piège. Non. Quand tu comprends comment tu t'es fait avoir, tu vas moins te faire avoir.
Oui, je suis d'accord.
Bien
mais
sûr.
Bon, on va quand même se faire
au moins, avoir. Tu vas comprendre quand tu t'es fait avoir.
Mais on l'a vu.
Il faut comprendre. Donc là, en vérité, ce qu'on va essayer de comprendre la semaine prochaine, c'est qu'en vérité, le même feu que tu vas avoir devant l'église, on devrait l'avoir pour toute la vérité. Concrètement, ce n'est pas le cas. Et comme tu as dit, je ne sais pas si ça changera. Mais au moins, il faut comprendre pourquoi ce n'est pas le cas. Ça, Bézrat Hachem, on va développer longuement la semaine prochaine. Donc on va prendre, pour simplifier les choses la semaine prochaine, on va prendre le prototype d'un juif qui est non pratiquant, qui fait rien, qui fait les 400 coups. Et que devant l'église, il s'arrête. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête devant l'église, qu'est-ce qui se passe dans sa tête devant les autres avérotes. Et point par point, on va expliquer. Et après, quand on va analyser en mode caricature, après, quand on va revenir en nous, on va. Bon, ben, bien sûr, ce sera pas aussi fort. Chez ce juif-là, c'est vraiment caricature. Là, c'est zéro, là, c'est un. D'accord? Chez nous, ça va être moins accentué que ça. Mais au moins, ça va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe en nous, pourquoi on peut continuer à faire une avéra sans être réellement dérangé. Je fais une avéra et ça me dérange pas vraiment. Pourquoi ça me dérange
pas d'être juif.
D'accord? Ça, on va devoir développer plus longuement. Ça veut dire quoi? Arrêter d'être juif, pas arrêter. Qu'est-ce que le Hitler a me mis dans la tête? Ça va être attaché la prochaine. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors moi, je vais pas pouvoir rester pour ma arrive. Je vais devoir y aller.